Bonjour Mario Calais.
Ça va bien?
Bah, et pas en avance, hein. Je prenais un petit café avec Axel de Tarlé, on discutait,
papote,
on
se
disait qu'il y avait comme une journée pluvieuse.
Pendant ce temps,
hier,
Julie était déjà là en train de
Julie
s'installer.
Julie était là, évidemment.
Mais bien sûr.
Récurer ce studio magnifique. Ça va, Julie?
Oh, la caricature. La femme
de
ménage.
Pendant que les hommes papotent.
Pendant que l'homme discute, la femme nettoie.
Allez, au boulot, Thomas.
Je pense que je vais rentrer, moi.
Maintenant, vous restez. Vous restez parce qu'on a besoin de vous. Bonjour, Julie.
Bonjour, Thomas.
Bonjour à tous. L'actualité se lève tôt et ne s'arrête jamais sur Europe 1.
Europe 1, 5h57, dans 3 minutes, moins de 3 minutes. Le journal d'Hélène Zélen.
Votre croissant est là, Axel. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est un sujet très délicat qui revient une nouvelle fois sur le devant de l'actualité à la faveur du procès du docteur Bonnemaison. Docteur jugé pour avoir mis fin au jour de 7 personnes qu'il estimait en fin de vie. À 6h15, posez-nous toutes vos questions sur la fin de vie, l'euthanasie, les règles existantes. Europe 1 vous répond.
Vous nous contactez soit sur europe1.fr, soit via Twitter avec le hashtag E1Matin.
À 6h25, l'écho et vous avec Axel de Tarlé. Donc bonjour Axel.
Rebonjour Thomas.
Bonjour, ça va?
Oui, très bien.
Bon, on va parler de la raison cachée, celle qui explique l'ampleur de la grève de la SNCF ce matin. On va avoir l'occasion d'y revenir.
Alors la raison cachée, c'est l'arrivée de la concurrence totale en 2019. C'est demain, c'est dans 5 ans. Imaginez, on pourra théoriquement choisir la compagnie ferroviaire de son choix pour faire un Paris-Marseille, exactement comme dans l'aérien. Évidemment, c'est une révolution qui angoisse les cheminots.
Voilà, la peur de 2019 qui explique bien des choses ce matin. Les explications, les détails avec Axel de Tarlé, c'est à 6h25. L'écho et vous, à tout à l'heure Axel.
La météo, installez-vous Laurent.
Alors
c'est
il s'installe, il s'assoit, il ouvre le micro.
Je suis là.
Ça va Laurent Cabrol?
Ça va pas mal, j'ai des températures plutôt sympathiques. De 15-16 à Paris, c'est pas
en
mal.
En ce moment
hein. Oui, en ce moment, comme à Lyon, Bordeaux. 15-16 Lille, Cognac, Clermont-Ferrand, 11 à Nantes, un peu frais à Rennes avec 9 degrés, 20 à Toulouse, 21 à Marseille et 24 degrés dans le comté niçois.
C'est un petit peu au niveau de la pluie qu'on a eu des soucis hier quand
oui.
même. Hein.
Bah oui, oui. Alors hier sur Paris, il y a eu ce qu'on appelle un couloir de pluie qui est parti de très bas, pratiquement du Limousin, et qui est remonté sur la capitale. Et comme il ne bougeait pas d'aller ni à droite ni à gauche, on s'est goinfré toute la pluie pendant toute la journée. C'est-à-dire que là, on a eu ce couloir de pluie, il a fallu qu'il passe, qu'il s'en aille, mais il ne se décalait pas vers l'est ni vers l'ouest. C'est ça qui était terrible. Alors là, Paris a été servi, mais enfin bon, Paris n'est pas la France.
On se les goinfrait.
On se les goinfrait. J'en connais d'autres. Des orages se réactivent en Alsace, dans les Vosges, le Mâconnais, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes puis l'Auvergne. Des orages aussi dans les Cévennes, la vallée du Rhône et les Pyrénées. Tout ceci donc dans le courant de l'après-midi seulement, alors que nous aurons des ondées sur la Lorraine, le Morvan, le Limousin et du soleil en Bretagne, Normandie, Nord-Picardie, région parisienne et Val-de-Loire. Et le Poitou-Charentes. Quand je dis on s'en joue, on connaît d'autres, bien sûr, il ne s'agit pas de vous, chers amis, qui êtes autour de cette table. Mes amis, je vous retrouve tout à l'heure.
Merci pour cette précision, Laurent. À tout à l'heure.
Europe 1, il est 6h.
Bienvenue et bon réveil à tous.
6h, 9h, Thomas Soto sur Europe 1.
L'actualité en trois titres. Nouvelle journée de galère pour les usagers des transports. Une grève reconductible à la SNCF qui perturbe aussi bien les grandes lignes que les TER et les transiliens. Les taxis ont également décidé de se faire entendre ce mercredi. La loi Allure, voulue par Cécile Duflot, vidée de son contenu, c'est une information Europe 1. La garantie universelle des loyers, notamment, devrait être enterrée. Et puis, premier entraînement des Bleus hier au Brésil. Il y avait environ 10 000 spectateurs pour les applaudir. Le journal de 6h, Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une journée débrouille qui commence avec la grève à la SNCF. 4 syndicats protestent contre le projet de réforme ferroviaire qui arrive à l'Assemblée la semaine prochaine et prévoit un rapprochement avec RFF, le réseau ferré de France. Sur les grandes lignes, on compte en moyenne un TGV sur 2 ou sur 3. En Ile-de-France, un transilien sur 3. Perturbations aussi sur les lignes régionales. Écoutez, ces voyageurs rencontrés Gare du Nord plutôt résignés.
Ça va dépendre des trains et si mes parents veulent bien me prêter la voiture. Mais... En fait, je prends deux RER, donc ça risque d'être compliqué. Déjà que j'ai 2 heures de transport, normalement, je vais essayer d'avoir la voiture.
Alors, ligne K, aucun train ne circule. Vous prenez vos pieds, vous prenez, je sais pas, moi, votre cheval, ce que vous voulez, voilà. Ben, je reste chez moi. J'ai possibilité de travailler à la maison, donc je vais le faire, exceptionnellement, voilà. Tout le monde n'a pas cette chance.
Oh, bon, on va s'organiser normalement, hein, prendre le train, les horaires sont indiqués. Ils défendent leurs droits et leurs acquis, ces salariés, ils ont bien raison, c'est ce qu'il faut faire.
Moi je prends ma voiture, je pars de très bonne heure parce qu'en plus ils annoncent une grève de taxi qui engendre sur Roissy, donc forcément un bouchon. Donc j'anticipe, je pars beaucoup plus tôt.
À partir du moment où on aura des horaires bien déterminés qui respectent les horaires,
Bon, voilà. Et en même temps, je ne sais pas trop pourquoi ils font grève et c'est ça le problème, quoi. Les défendre, je veux bien, à partir du moment où on est informé du pourquoi et du comment. Pour l'instant, rien n'est fait. Donc, on attend les discussions. Qu'est-ce qui va en sortir de là? Après, faire grève, oui ou non, en fonction de ce qui sera dit, mais pas faire grève en amont. Ça, je trouve ça un petit peu inadmissible.
Des voyageurs de la gare du Nord au micro Europe 1 d'Aurélien Fleureau. Autre mouvement social aujourd'hui, celui des chauffeurs de taxi qui se mobilisent d'ailleurs dans toute l'Europe pour protester contre la concurrence des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Rendez-vous est donné dès maintenant aux aéroports d'Orly et Droissy. Ils ont l'intention de rejoindre Paris dans la matinée. Des mouvements de protestation sont également prévus à Londres, Rome ou Berlin.
Et toute la matinée, Europe 1 vous aide à circuler en voiture ou en train. On fera le point tous les quarts d'heure dans les rappels des titres avec Baptiste Cordier. Toutes les infos en temps réel également sur notre site Europe1.fr.
Cela fait un moment que les salariés de Bouygues Télécom sont dans l'attente et surtout dans la crainte d'un plan social. Eh bien, il devrait être annoncé aujourd'hui lors d'un comité d'entreprise. Officiellement, l'opérateur doit révéler les contours de sa stratégie après l'échec de l'union avec SFR. Mais les syndicats s'attendent à de mauvaises nouvelles. Au moins 1000 suppressions de postes sur 9000. Azam Adab est délégué CFDT chez Bouygues. Pour lui, l'objectif de la direction, c'est de pouvoir vendre plus facilement l'entreprise quand les charges auront été allégées.
On craint que les scénarios SFR ne se reproduisent chez nous. L'entreprise SFR a été vendue, mais elle a été vendue suite à plusieurs plans de départ. C'est-à-dire aujourd'hui, il ferait des départs pour dégraisser un peu l'entreprise et pour mieux nous vendre plus tard. Et il y a 2 mois encore, le groupe Bouygues a mis 2 milliards sur la table pour acheter SFR. Pourquoi ne pas mobiliser cette somme d'argent pour une autre stratégie qui est favorable aux investissements et aux emplois? Il est inenvisageable de faire payer les salariés les erreurs des autres. Ce sont ces salariés même qui ont réussi à faire des résultats de nature à distribuer des dividendes de l'ordre de 2,872 milliards d'euros. Et aujourd'hui, d'un jour au lendemain, en fait, on dit à ces salariés-là, il faut que vous partiez pour que l'entreprise aille mieux. D'où l'incompréhension totale.
Le représentant CFDT de Bouygues au micro Europe 1 de Sébastien Guyot. Des économies au menu du Conseil des ministres. Ce matin, le gouvernement va dévoiler un nouveau budget pour l'année qui devra tenir compte d'un déficit supérieur aux prévisions et du 1 milliard d'euros de réduction d'impôts pour les ménages.
Europe 1, 6h04.
Cécile Duflot doit avoir les oreilles qui sifflent. L'ancienne ministre du Logement a engagé des mesures qui ont paralysé le marché immobilier. D'ici quelques jours d'ailleurs, la nouvelle ministre Sylvia Pinel doit faire des annonces pour relancer la construction. Mais selon vos informations, Carole Ferry, il est également question d'un enterrement de première classe pour la fameuse loi Allure de Cécile Duflot.
Oui, car la loi Allure a bien été votée, mais il manque toujours les décrets d'application. Ça peut paraître un détail, mais en réalité, c'est toute la loi qui va être vidée de son sens. Sur l'encadrement des loyers, tout d'abord. La loi devait enrayer la flambée des prix dans toutes les grandes villes. Finalement, elle sera appliquée uniquement en région parisienne. Pour Marseille, Lyon ou Bordeaux, c'est renvoyé au calendrier grec. Et même à Paris, la loi pourrait être assez facilement contournée, car si vous estimez avoir un bien exceptionnel, vous pourrez fixer le loyer que vous voulez. Sur les frais d'agence ensuite, ils devaient être limités à 12 euros le mètre carré à Paris. Selon les professionnels, ce sera plutôt 16 euros. Et la différence n'est pas négligeable. Prenons l'exemple d'un 70 mètres carrés, on aurait dû payer 840 euros de frais d'agence, on payera 1120 euros. Enfin, dernière mesure phare de cette loi Duflot, la garantie universelle des loyers. L'idée, c'était de créer un fonds pour rembourser les propriétaires quand le locataire ne paye pas. Certains craignaient que ça encourage les mauvais payeurs. Cette mesure, qui avait déjà du plomb dans l'aile, devrait être définitivement enterrée.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Et puis hier soir, les députés ont commencé à examiner en première lecture le projet de loi sur l'accessibilité des transports et des lieux publics aux handicapés. Une chose est sûre, la concrétisation de la mesure ne pourra être effective l'an prochain comme prévu. Seuls 15% des établissements recevant du public ont entamé les travaux nécessaires. Le projet de loi prévoit de leur donner plus de temps pour mettre leurs installations aux normes, à condition que les établissements s'engagent sur un calendrier de travaux. On va beaucoup reparler d'euthanasie aujourd'hui avec le procès qui s'ouvre devant les assises des Pyrénées-Atlantiques. Le docteur Nicolas Bonnemaison, qui travaillait aux urgences de l'hôpital de Bayonne, est accusé d'empoisonnement sur personnes particulièrement vulnérables. 7 patients âgés décédés dans le service. Dénoncé par des infirmières et une aide-soignante, le docteur Bonnemaison a toujours assumé ses actes. C'est Stéphane Place est à Pau pour Europe 1.
Août 2011, des infirmières et une aide-soignante du centre hospitalier de la Côte Basque font part de leurs soupçons. Depuis plusieurs semaines, le comportement du docteur Bonnemaison et les décès de patients admis dans cette unité d'hospitalisation de courte durée suscitent des questions. L'enquête judiciaire ne va pas tarder à apporter des réponses. D'après ces investigations, l'urgentiste aurait utilisé un psychotrope de l'hypnovel et au moins une fois du norcuron à base de curare pour abréger la vie de 7 personnes âgées, 5 femmes et 2 hommes, entre mars 2010 et l'été 2011. Une seule famille s'est constituée partie civile dans cette affaire. D'après les témoignages recueillis par les policiers, le médecin aurait plaisanté sur le pronostic à court terme de leurs proches, une octogénaire, allant jusqu'à parier un gâteau avec un aide-soignant que cette malade ne serait probablement plus là le lendemain. Elle décéda effectivement dans les heures suivantes. Se défendant d'être un militant de l'euthanasie, radié au printemps dernier par le Conseil de l'Ordre, Nicolas Bonnemaison est attendu tout à l'heure par ses juges et par son comité de soutien qui a prévu un rassemblement devant le tribunal ce matin dans le calme et la dignité. Pau, Stéphane Place, Europe 1.
Une querelle conjugale entre octogénaires a mal tourné à Vimy dans le Pas-de-Calais. La femme de 81 ans et son mari de 84 ans étaient séparés depuis l'an dernier mais se revoyaient pour régler des problèmes administratifs. Ils se sont disputés lors d'un déjeuner. La dame est allée chercher un fusil de chasse. Elle a tiré. Son ex-mari est grièvement blessé et elle se retrouve en prison à Sequedin dans le Nord. La politique, l'UMP est sauvée. Déclaration de Jean-Pierre Raffarin qui avec Alain Juppé et François Fillon prend la direction provisoire du parti. Ils ont été désignés après un vote unanime du bureau politique hier soir. Écoutez l'annonce dans la voix d'Alain Juppé.
Le bureau politique a adopté à l'unanimité, je voudrais le souligner, une motion dans laquelle il charge le collège que nous constituons, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et moi-même, avec un nouveau secrétaire général en la personne de Luc Chatel, de conduire le mouvement jusqu'à l'organisation du congrès qui élira un nouveau président d'ici le mois de novembre. Voilà les décisions qui ont été prises. C'est très important d'avoir cette unanimité. J'avais dit moi-même qu'il fallait un consensus ici parce que le mouvement sort d'une période difficile et seule une décision aussi large que possible, unanime, nous permet maintenant de repartir de l'avant.
Alain Juppé au micro Europe 1 de David Doucan. Quant à Jean-François Copé, l'ancien dirigeant de l'UMP, il considère que le compromis trouvé hier soir est la formule de la sagesse.
Et notez qu'un des trois anciens premiers ministres, membre de ce triumvirat, François Fillon, sera tout à l'heure à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1.
À gauche, une enquête fiscale contre une société liée à un conseiller de François Hollande, Faouzi Lamdaoui. Selon l'Express, les policiers le soupçonnent d'éventuels recels d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale. Et puis du côté du FN, rien ne va plus entre le père et la fille Le Pen. Le président d'honneur du Front National se dit très blessé après la décision de Marine Le Pen de ne plus accueillir son blog hebdomadaire sur le site internet du parti. Jean-Marie Le Pen dit même n'avoir plus aucune communication avec sa fille. Ils se sont, vous le savez, tous les deux affrontés par médias interposé pendant le week-end après les propos sur la fournée pour les artistes hostiles au FN.
Merci Hélène Zellani.
Europe 1, il est 6h09. Thomas Soto.
Le journal des sports d'Europe 1. Et ben voilà Jérôme Lacroix, bonjour.
Bonjour.
C'est demain
Thomas,
le début du mondial France-Brésil. Les présentations sont faites.
Et pour l'instant, c'est idyllique. C'est un public local qui a porté hier les Bleus pour leur premier entraînement. 10 000 spectateurs étaient présents, brésiliens pour la très grande majorité. Et puis également à la une, cette question: quelle chanson écoutent les Bleus sous la douche? Restez bien avec nous, vous saurez tout.
Voilà, on en reparle dans moins d'une demi-heure, le journal de la Coupe du Monde, tout en musique donc, comme tous les jours pendant la Coupe du Monde à 6h40 sur Europe 1. Quoi d'autre dans l'actualité sportive du jour, Jérôme?
La Ligue 1 se réveille tout doucement. Les joueurs et entraîneurs des équipes de notre première division voient poindre au loin la fin des vacances. Les Marseillais devraient être les premiers à reprendre Thomas dès lundi
déjà
prochain.
Ouais.
Oui, le 16 juin, c'est très très tôt. Déjà la touche Bielsa peut-être. Le nouvel entraîneur à qui l'on prête des méthodes quasi militaires. D'autres choisissent au contraire de repousser la date prévue. C'est le cas à Bordeaux, par exemple. Les joueurs devaient rechausser les crampons le 26 juin. Finalement, ce sera le 30.
Bordeaux, un club dont on a beaucoup parlé à l'intersaison.
Et oui, en raison de la venue espérée, en tout cas du côté des dirigeants, de Zinedine Zidane au poste d'entraîneur. Finalement, c'est son ancien partenaire en bleu, Willy Sagnol, qui a pris les rênes de la formation girondine. Il a été présenté officiellement hier. Des objectifs multiples pour sa première saison en club en tant qu'entraîneur. D'abord, sortir Bordeaux du ventre mou du championnat et puis surtout proposer un peu plus de spectacle dans le jeu. Pour ça, dit l'ancien sélectionneur des espoirs, vous pouvez me faire confiance.
Aujourd'hui, c'est une des garanties déjà qu'on peut donner. Oui, il y aura des buts. Bordeaux a besoin de plein de choses, a besoin de beaucoup de monde dans le stade, a besoin de spectacle et je pense que les gens viennent au stade pour voir des buts. On ne peut pas démarrer un match en se disant qu'on va gagner 1-0 ou qu'on va essayer de faire 0-0. On doit rentrer dans un match d'abord pour prendre beaucoup de plaisir. Et je pars du principe que quand on prend du plaisir, il y a toujours beaucoup de buts qui en découlent.
Des propos recueillis par Marc Nouveau pour Europe 1.
Du tennis, on est à 12 jours de Wimbledon. Gaël Monfils est toujours en forme.
Et oui,
c'est la bonne
le
nouvelle.
Meilleur français du dernier Roland-Garros a passé sans encombre le premier tour du tournoi sur gazon de Halle en Allemagne, qui fait office de répétition avant le grand chelem londonien. Victoire contre l'allemand Becker. Il joue aujourd'hui. Benjamin Becker.
Ah d'accord.
Mais Benjamin, ouais. Ah oui. Il joue aujourd'hui, c'est pas le même. Il joue aujourd'hui Gaël Monfils contre le japonais Nishikori. Nouvelle déception en revanche pour Richard Gasquet, battu par le néerlandais Haase. Et puis du côté du Queen's en Angleterre, autre tournoi anti-chambre de Wimbledon, on devrait voir aujourd'hui le premier entraînement d'Andy Murray aux côtés d'Amélie Mauresmo, sa nouvelle coach.
Juste un petit mot de voile et une mauvaise nouvelle pour Yann Elias.
Oui, la fin du rêve, vraiment. Il a dématé hier au troisième jour de course seulement sur la solitaire du Figaro. Il ne deviendra donc pas le premier skipper à remporter trois fois de suite l'épreuve. Au dernier pointage, il y a deux heures, le Normand Charlie Dalin était en tête.
Allez, mettez votre short et vos crampons. On vous retrouve à 6h40 pour le journal de la Coupe du Monde sur Europe 1. À tout à l'heure, Jérôme Lacroix.
Europe 1, 6h12.
Hélène Zélani nous en parlait tout à l'heure du docteur Bonne-Maison. L'euthanasie active, passive, une loi compliquée pour faire face à des situations humaines qui ne le sont pas moins. Ça vaut donc à ce médecin de se retrouver devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à partir de ce matin. Posez-nous toutes vos questions, on va essayer de faire avancer le débat. Europe 1 vous répond.
Europe 1, 6h15, Thomas Soto.
Le rappel des titres, grève à la SNCF ce matin, la circulation est très perturbée. Baptiste Cordier, on fait un premier point en direct avec vous sur le trafic.
Oui, seulement un TGV sur deux circule dans le nord et dans l'est, un sur trois partout ailleurs, toutes les régions sont touchées. En moyenne, il y a un TER sur trois ce matin.
Voilà, nous serons à Lille dans le journal de 6h30, le trafic en temps réel, c'est toute la matinée et toute la journée sur europe1.fr. Fragilisé après son échec dans la reprise de SFR, Bouygues Télécom devrait aujourd'hui annoncer la suppression d'au moins 1000 postes sur 9000. Un comité central d'entreprise se tiendra tout à l'heure. Et puis l'UMP se choisira un nouveau président en novembre. D'ici là, le trio d'anciens premiers ministres Juppé, Raffarin, Fillon prend les rênes du parti. Luc Chatel en devient le secrétaire général provisoire. La météo de ce mercredi, beaucoup de nuages ce matin, mais ensuite du soleil sur toutes les régions qui bordent la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Hélas, encore beaucoup d'orages dans l'Est, en Rhône-Alpes, en Auvergne et dans la vallée du Rhône. Température de 23 degrés à 36 à Alès. Il fera 24 à Paris, 26 à Nantes, 28 à Marseille.
6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto.
Le procès du docteur Nicolas Bonne-Maison va donc s'ouvrir tout à l'heure. Il est accusé d'avoir empoisonné 7 personnes en fin de vie. Bonjour docteur Vincent Morel.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. À chaque fois qu'on aborde ces questions-là, évidemment, on touche à des sujets sensibles. Pour commencer, il faut parler de ce qui est permis ou de ce qui est toléré en matière de fin de droit, de fin de vie.
Je crois qu'il faut parler de ce qui est permis et de ce qui permet de soulager les malades. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à la fois un arsenal juridique et des compétences médicales qui permettent d'accompagner un malade jusqu'à la fin de sa vie sans qu'il souffre. Et je crois que c'est les éléments fondamentaux qu'il faut dire. C'est qu'aujourd'hui, grâce à la loi Leonetti, grâce au progrès des soins palliatifs, un malade qui arrive au terme de sa vie est soulagé, et il faut rassurer aussi les familles pour dire qu'elles seront accompagnées de façon à ce qu'elles puissent être avec leurs proches qui arrivent à la fin de sa vie.
Mais ça, c'est simple comme un texte de loi. La réalité, elle est souvent plus compliquée. On le voit, on va le voir encore devant la cour d'assises. Il n'est pas question de faire le procès avant l'heure, mais quand même, on est toujours dans cette zone grise, en quelque sorte, où on ne sait pas trop ce que veut, est-ce que le patient peut encore exprimer ses volontés.
La réalité, elle peut apparaître compliquée, mais l'application des textes de loi, l'application des bonnes pratiques de la médecine permet de trouver les solutions. C'est ce que je fais moi au quotidien. Lorsque je rencontre un patient, il m'exprime trois craintes. La peur de souffrir, la peur de ne pas être écouté et la peur de subir l'acharnement thérapeutique. Et grâce à la loi Leonetti, je peux lui dire que je vais répondre à ces trois craintes. Je vais le mettre en permanence au cœur des décisions qui le concernent. Soit il peut s'exprimer, et là c'est simple, je n'ai qu'à suivre ce qu'il me demande. Soit il ne peut plus s'exprimer à cause de la maladie. Et à ce moment-là, je peux lui dire que je lirai ses directives anticipées, que je consulterai sa personne de confiance et que je consulterai sa famille. Donc là, il va être rassuré en sachant qu'il sera au cœur des décisions.
Elle est bien faite, cette loi Leonetti, là? Ou est-ce qu'il faut en redébattre et fixer de nouvelles règles?
Cette loi, elle est très bien faite parce qu'ensuite, elle va permettre au malade d'être assuré qu'il sera soulagé. La loi Leonetti oblige le médecin à soulager le patient. Et nous avons aujourd'hui tous les traitements pour soulager un patient. Nous n'avons pas besoin de provoquer le décès du patient pour qu'il soit soulagé. Donc ça, c'est le deuxième élément de la loi. Et le troisième, c'est que la loi interdit l'acharnement thérapeutique. En pratique, il empêche un malade de vivre dans une situation dans laquelle il ne souhaite pas vivre.
Prenons le cas de Vincent Imbert dont on parle énormément depuis plusieurs mois. On est typiquement là dans une situation où on peut avoir le texte de loi et lire ces beaux principes. On voit bien que ça ne répond pas. La justice n'y arrive pas, la famille n'y arrive pas, la belle famille n'y arrive pas, les médecins n'y arrivent pas.
Dans l'affaire Vincent Lambert. Dans l'affaire Vincent Lambert, il ne met pas en évidence des défauts de la loi. Il met en évidence une méconnaissance de la loi. Parce que dans la situation de Vincent Lambert, la difficulté, c'est que ce jeune homme n'a pas écrit ses directives anticipées et n'a pas désigné de personne de confiance. Donc que fait le médecin? Il dit peut-être que je suis dans l'obstination déraisonnable, peut-être que je suis dans l'acharnement thérapeutique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir une intime conviction de ce qu'aurait souhaité Vincent Lambert, donc je vais consulter sa famille. Or, il s'est trouvé face à une famille déchirée. Certains disant qu'il faut poursuivre les soins, d'autres disant qu'il faut arrêter les traitements. Donc l'affaire Vincent Lambert ne met pas en défaut la loi, elle met en défaut la connaissance que nous avons de la loi.
À ceci près, docteur Morel, que Vincent Lambert est un jeune homme, il a 37-38 ans de mémoire. Ça veut dire qu'il faut que dès l'âge de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, on se pose ces questions et qu'on fasse connaître nos volontés?
Je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai fait.
Parce que c'est souvent un sujet réservé entre guillemets aux personnes âgées. On commence à y penser quand on est beaucoup plus vieux.
C'est un sujet difficile et j'ai moi-même écrit les directives anticipées et j'en connais les difficultés. C'est-à-dire que je connais la difficulté à un moment donné de signer en bas d'un papier que si jamais je suis dans un coma, je souhaite qu'au bout d'un certain mois, si je suis toujours dans le coma, les médecins ne s'acharnent pas et arrêtent tous les traitements qui me maintiennent en vie. Ce que je demande aussi dans mes directives anticipées, c'est d'accompagner ma famille. Mais les directives anticipées, c'est fondamental pour deux choses. À la fois pour soi-même, parce qu'on est capable de dire ce que l'on souhaite, mais c'est aussi important pour la famille, parce que je pense que ça enlève un poids à la famille de devoir dire, de devoir s'impliquer trop dans l'histoire. Donc quand je les ai écrits, j'ai pensé à la fois à ma propre situation, mais j'ai également pensé à mes proches pour éviter qu'un drame humain se surajoute un drame familial.
Alors ces directives anticipées, il suffit de les écrire sur un papier libre, il faut que ce soit manuscrit j'imagine. Alors,
Il faut que ça soit manuscrit, donc il suffit de prendre un papier, d'écrire, de les dater parce qu'elles sont valables 3 ans, et puis de dire voilà, moi Vincent Morel...
C'est valable 3 ans, ça c'est important.
C'est valable 3 ans. Hein, donc il suffit de dire moi Vincent Morel, si à la suite d'une maladie ou d'un accident je suis dans le coma, voilà ce que je souhaite. Donc on l'écrit, on signe, on les donne à son médecin traitant, on les met dans ses papiers, comme un peu sa carte de donneur pour le don d'organes.
C'est ça, l'idée c'est d'avoir dans son portefeuille une carte comme on a son groupe sanguin, on peut avoir...
Voilà, donc moi je plaiderais par exemple pour que ces directives anticipées, comme la personne de confiance, soient sur la carte vitale, c'est-à-dire facilement accessible.
On a un tweet de Catrouze avec le hashtag #EUMATA qui nous dit « Le site riponline.com permet de laisser ses volontés. » Est-ce que ça, c'est valable? Est-ce que d'aller exprimer ça sur un site internet, ça a une quelconque valeur légale?
Je ne connais pas ce site. Ce qui est,
moi non plus.
Ce qui est intéressant, c'est de dire ce que l'on souhaite. Et le médecin, lorsqu'il va devoir prendre une décision compliquée, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer d'avoir son intime conviction. Donc, il va consulter toute l'équipe médicale, il va consulter toute la famille. Et quand je dis qu'il consulte toute la famille, c'est qu'il doit consulter toutes les personnes qui auront à dire quelque chose. Et si jamais je les ai écrits sous une forme ou sous une autre, bien sûr que comme médecin, je prendrai compte de tout ce qui a été dit et écrit.
Après, on sait qu'il y a encore une majorité de Français qui n'ont pas fait part de leurs vœux, de leurs souhaits dans ce genre de situation. On a l'impression que l'euthanasie, en fait, elle se pratique en toute discrétion dans le secret des chambres d'hôpitaux et que de temps en temps, il y a un médecin qui se fait prendre ou une affaire qui devient médiatisée et qu'on en reparle. C'est ça la réalité aussi?
La réalité, quand on regarde le passé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gestes d'euthanasie réalisés en France grâce à la loi Leonetti.
Le rapport, on sait combien il y en a des sauvages, des illégales ou pas?
Le rapport de l'INED a montré qu'il y avait à peu près en France 3000 euthanasies clandestines. Un chiffre de comparaison, c'est
par an.
Pour comparer, en Belgique, pays qui a dépénalisé une loi sur l'euthanasie, il reste encore 1500 euthanasies clandestines. Ça veut dire qu'en France, en gros, on va dire que 0,6% des décès sont liés à des euthanasies clandestines. En Belgique, c'est 1,8%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas une loi qui viserait à dépénaliser l'euthanasie, qui va diminuer ces euthanasies clandestines. C'est au contraire l'application de la loi Leonetti, l'application des bonnes pratiques soignantes, c'est-à-dire de se dire que l'objectif de la médecine, c'est de soulager un patient et ce n'est pas de provoquer son décès.
Vous en avez pratiqué une déjà d'euthanasie clandestine ou...
Jamais.
Jamais.
En 15 ans de médecine, je n'ai jamais provoqué d'euthanasie parce que j'étais formé par des maîtres, par une équipe médicale qui m'a appris à soulager un malade. Et mon expérience, c'est que quand on soulage un patient, la question de l'euthanasie, c'est pas la question qui arrive en premier. Ce qui arrive en premier, ça va être peut-être de réunir sa famille ou de continuer à vivre le temps qui reste.
Merci beaucoup, docteur Vincent Morel, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et ce conseil que vous nous donnez, le plus simple pour tout le monde, c'est de faire connaître ses volontés, même si on est jeune et même si on se dit que c'est pas forcément un sujet d'actualité pour nous, immédiat en tout cas, et c'est tant mieux. Merci, bonne journée.
Je vous remercie.
Europe 1, 6h23.
C'est donc jour de grève à la SNCF. Mais pourquoi cette grève? Vous allez voir qu'en fait, nos cheminots ont peur de l'avenir et de ce qu'il se passera en 2019. C'est quasiment demain. Les explications d'Axel de Tarlé, c'est l'écho et vous sur Europe.
Europe 1, 6h24. L'écho et vous, Thomas Soto.
Et Axel de Tarlé. Axel, 44% des cheminots, a priori, sont en grève aujourd'hui. C'est un mouvement dont l'ampleur a surpris le gouvernement. En toile de fond, il y a une vraie inquiétude des cheminots quant à l'arrivée de la concurrence. Concurrence qui débarque là en 2019.
Hein. Voilà, c'est-à-dire demain, vous l'avez dit, dans 5 ans. Pour imaginer ce qui va se passer, on pourra faire un Paris-Marseille, non, en choisissant la compagnie ferroviaire de son choix. Exactement comme dans l'aérien, on peut choisir Air France, ou EasyJet, ou Ryanair, ou British Airways.
À ceci près qu'il n'y a pas des rails pour tout le monde, ça va quand même pas être une déferlante. Qui va venir concrètement concurrencer la SNCF?
Alors vous avez raison, sur les longues distances, et notamment les TGV, franchement, la SNCF a peu de soucis à se faire. En revanche, là où la concurrence va être violente, c'est sur le transport régional, les TER. Comme vous le savez, les régions sont très mécontentes du service fourni par la SNCF, car je vous rappelle que ce sont les régions qui payent. Enfin d'ailleurs, certaines hein, comme l'Aquitaine, Franche-Comté et bien d'autres ne payent plus tellement elles sont mécontentes. Et donc, elles se réjouissent secrètement de l'arrivée de la concurrence. Comment ça va se passer? Eh bien, à l'occasion d'un appel d'offres, vous aurez des régions comme l'Alsace ou l'Aquitaine qui décideront de confier la gestion de leur ligne régionale, donc de leur TER, des trains, non plus à la SNCF, mais à des opérateurs privés. Alors en l'occurrence, il y a deux compagnies qui piaffent d'impatience. C'est la Deutsche Bahn, donc la SNCF allemande, avec sa filiale Arriva. Et puis il y a un français, Transdev, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui est un spécialiste du transport régional par bus en France et par train à l'étranger.
Alors les syndicats sont vent debout face à cette concurrence qui s'annonce. Ça dit, elle existe déjà dans le transport de marchandises, dans le fret.
Voilà, exactement. Et c'est ça qui inquiète la SNCF, parce que depuis que le fret ferroviaire a été ouvert à la concurrence en 2006, la SNCF, ça s'est très mal passé, hein, a perdu un tiers du marché. Elle a vu son trafic chuter de moitié et donc les cheminots, bien sûr, redoutent de voir la même chose dans le transport de voyageurs. Alors le problème, c'est que c'est Bruxelles qui nous impose cette concurrence ferroviaire totale, qui est déjà d'ailleurs largement enclenché chez nos voisins. Et d'ailleurs, la SNCF française est très active sur ces marchés depuis qu'ils ont été ouverts à la concurrence. La SNCF française est très active en Italie, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Oui,
donc
elle fait rouler des trains privés
chez les autres. Oui. Et comment ça se passe alors justement chez nos voisins?
Alors en Allemagne, c'est une réussite totale. Le coût du train a nettement diminué. En France, le coût du TER, c'est environ 20 euros du kilomètre. En Allemagne, c'est 12 euros du kilomètre. Et attendez, l'offre s'est nettement améliorée. Il y a eu 36% de voyageurs en plus. Alors bien sûr, les cheminots allemands ont dû faire des efforts de productivité. Et c'est bien cette perspective qui angoisse les cheminots français et qui explique en grande partie le succès de cette journée de mobilisation.
Journée de mobilisation renouvelable. Donc on saura ce soir si ça se poursuit demain. Évidemment, on vous raconte tout ça et on vous aide à circuler toute la journée sur Europe 1. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Éco. On parlera de quoi?
Alors de Bouygues Télécom qui va dévoiler aujourd'hui un plan de restructuration massif pour essayer de rebondir dans un environnement devenu ultra concurrentiel.
Merci Axel de Tarlé. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Europe 1, 6h28 dans 2 minutes. Le journal de Maxime Switek.
À suivre, une demi-heure pour tout savoir. Ce matin, un chiffre qui fait peur. On imagine à plus de 200, oui, 200, on estime à plus de 200 le nombre de bébés qui meurent chaque année parce qu'ils sont secoués. Bonjour docteur Lemoine.
Bonjour Thomas, bonjour Julie.
Bonjour.
Alors ce qui est marquant, c'est que ça touche vraiment tout le monde, hein, docteur.
C'est un sujet tabou et bien évidemment une maltraitance inadmissible. C'est toujours avant l'âge d'un an, aucun milieu social n'y échappe, les pleurs de l'enfant sont le prétexte et une seule secousse suffit.
Voilà, comment des parents, tout ce qu'il y a de plus normaux, en arrivent à avoir des comportements potentiellement criminels? Comment éviter les drames? Les réponses à 7h05 dans la question santé d'Europe 1. À tout à l'heure Jean-François, à vous qui vous trouvez ce matin en congrès aux États-Unis. À tout à l'heure.
Laurent Cabrol avec nous ce matin.
La météo, Laurent.
Oui, la zone de pluie s'échappe, une zone de pluie que nous avons
suivie
hier sur Paris et qui est même au dehors de Paris. Et cette zone de pluie s'échappe par la frontière du Luxembourg, la franco-luxembourgeoise, et par la Sarre que nous aimons tout particulièrement, Europe 1, puisque c'est là que nous avons notre émetteur au Fesberg, l'émetteur ronde longue. Alors, la Sarre reçoit les pluies que nous avions hier, comme le Luxembourg, et ailleurs, bien c'est le temps est plutôt nuageux, mais dans l'ensemble assez sec pour l'heure. Ça ne va pas durer, car nous aurons quelques orages sans commune mesure avec ceux que nous avons vécu fort heureusement. Ces orages vont se manifester cet après-midi en Alsace, dans les Vosges, le Mâconnais, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, l'Auvergne, les Cévennes, la vallée du Rhône et les Pyrénées. Et puis nous aurons donc en marge de cette zone orageuse quelques ondées sur la Lorraine, le Morvan, le Limousin, peut-être sur le Midi-Pyrénées. Enfin du soleil, car il y a du soleil aujourd'hui sur la Bretagne, la Normandie, le Nord, la Picardie, la Champagne, les Ardennes, la région parisienne, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le littoral aquitain et du Pays Basque sur une petite frange de 20 km et le littoral méditerranéen sur une frange également très réduite. En ce moment, il fait entre 10 et 24 degrés, 24 à Nice, 10 à Alençon, il en fait 15-16 à Paris, Lyon, Bordeaux, Besançon et Cognac. Et dans la journée, ce sera pas mal, entre 23 et 36 degrés, 36 à Montpellier, 23 à Lens, 24 à Paris, 27 à Cône-sur-Loire, 28 et 29 à Nancy, 30 à Dijon, 33 à Lyon. Et tout à l'heure, je vous parle de la suite qui s'annonce quand même dans l'ensemble assez sympathique.
Eh bien, tant mieux. À tout à l'heure, Laurent.
Europe 1, 6h30. Thomas Soto.
L'actualité en trois titres. L'heure des grands départs à l'Elysée. Plusieurs conseillers du président quittent leur poste. Certains sont visiblement épuisés par la méthode Hollande. C'était prévu, ça coince sérieusement ce matin à la SNCF. Trafic perturbé sur les grandes lignes et pour les trains régionaux, nous serons à Lille en direct. Et puis des centres de police dans plusieurs animaleries parisiennes. Des dizaines de chiens et de chats ont été saisis. La police soupçonne une vaste fraude à la vaccination. Journal de 6h30, Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. François Hollande change d'équipe. L'Élysée a annoncé hier un grand ménage. Une demi-douzaine de conseillers du président vont faire leur carton. Des noms pas forcément connus du grand public, mais des rouages essentiels dans la mécanique élyséenne. Alors tous ces départs sont-ils orchestrés ou subis par le président? Ce qui est sûr, Antonin André, c'est que ceux qui ont quitté le palais, et certains de ceux qui y sont encore d'ailleurs, décrivent une ambiance de travail très déstabilisante.
Imaginez que vous êtes dans une barque et que le type qui tient le gouvernail passe son temps à donner des coups de barre à droite et des coups de barre à gauche. Vous sortez de la réunion, vous êtes incapable de définir la direction qu'on va suivre. Voilà la confidence de l'un de ses conseillers sur le départ, épuisé par le fonctionnement du président de la République à l'Élysée. Parce qu'évidemment, il faut imaginer là qu'il s'agit de décisions importantes qui engagent le pays. Personne n'est jamais vraiment sûr de ce qu'il a décidé, me confie un autre conseiller toujours en poste, Hollande. C'est une boîte noire. Il tranche seul et souvent au dernier moment. Quand on lui donne des conseils, raconte Amer, un ancien, il vous répond « c'est moi le stratège ». Difficile à suivre donc, et un manager parfois acide, comme au moment de conclure une réunion, raconte encore un témoin, il se lève et il dit « on en reparlera avec ceux qui seront encore là dans un mois ». Lui sourit, les conseillers pas du tout. On parle souvent de l'enfer de Matignon. À entendre tous ces témoignages de conseillers, l'ambiance de travail à l'Élysée n'en est pas si éloignée.
Antonin André, remaniement à l'Élysée, remaniement aussi à l'UMP. Ça a été validé hier soir par le bureau politique. Le parti sera dirigé jusqu'au congrès de l'automne par trois anciens premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé et François Fillon. Ils seront épaulés par Luc Chatel, qui devient secrétaire général. Autre grand titre à la une ce matin. Deux mots. Bon courage. Europe 1 vous accompagne en cette journée de grève à la SNCF. Quatre syndicats proteste contre la prochaine réforme ferroviaire et le résultat, il est évident. Le trafic est très perturbé ce matin, que ce soit pour les TGV, 1 sur 2 dans le meilleur des cas, ou que ce soit pour les trains régionaux. Là, c'est 1 train sur 3. On va tout de suite aller vérifier ça du côté de Lille. Lionel Gougelot, vous êtes en direct de la gare Lille-Flandre. Vous confirmez, Lionel, ça coince du côté des TER?
Oui, effectivement, Maxime, c'est sur le trafic des trains régionaux hein, que les perturbations sont les plus fortes ce matin sur le réseau de la région Nord-Pas-de-Calais. À titre d'exemple, les trains en provenance d'Arras, de Béthune et de Douai, des trains qui étaient prévus aux alentours de 6h, 6h15, et bien tous ces trains ont été remplacés par des liaisons en autobus, et ce sera le cas pour de nombreuses destinations de la région ce matin, encore une fois, sur le réseau TER. Il faut compter un TER sur trois en moyenne sur l'un de ces réseaux régionaux les plus denses Île-de-France de France, et cette pénurie de trains risque d'entraîner de grosses difficultés de circulation pour cause d'usagers qui auront tout simplement choisi la voiture pour se rendre à leur travail dans la métropole lilloise. Ce matin, je suis, vous l'avez dit, sur les quais de la gare de Lille-Flandre où plusieurs dizaines de voyageurs sont actuellement en train de s'agglutiner littéralement au départ du TGV pour Paris prévu à 6h41. C'est le premier de la matinée. Le prochain partira dans un peu plus d'une heure, mais en moyenne, il ne faudra compter que sur un TGV sur deux sur cette liaison Paris entre Lille et Paris-Nord.
Lionel Gougelot en direct de Lille pour Europe 1. Notez que le trafic des RER est aussi perturbé en région parisienne. Un train sur trois sur les lignes C, D et E. Précision très importante également, cette grève des cheminots est reconductible. On saura donc dans la journée si elle se poursuit demain. Et puis décidément, c'est la journée. Les taxis aussi font grève à Paris, mais aussi à Marseille notamment. Là, c'est pour protester contre la concurrence des véhicules avec chauffeur.
Europe 1, 6h34.
Ça n'était pas arrivé depuis 3 ans. Le prix du litre de diesel est passé sous la barre des 1,30€, 1,29€ la semaine dernière en moyenne en France. Alors pourquoi les prix sont-ils tirés vers le bas en ce moment? Écoutez les explications du président de l'Union française des industries pétrolières, Jean-Louis Chilanski.
Pour les consommateurs, c'est une très bonne nouvelle. Le prix du gazole est tombé en dessous d'1,30€ le litre. On n'avait pas connu ça depuis février 2011, donc depuis plus de 40 mois. Alors sur un plein, par rapport au niveau qu'on avait connu de 1,45€, ça représente une économie de l'ordre de 10€, ce qui est tout à fait appréciable. Alors le prix du diesel est particulièrement bas, d'abord parce que le prix du brut est très stable et pas élevé comme on l'a connu à certaines périodes, et puis surtout il y a une très grande abondance de diesel dans le monde. En fait, il y a une surproduction et le prix du diesel est particulièrement bas sur les marchés mondiaux. Et dans la mesure où on a ces prix bas sur les marchés mondiaux, et ben on a des prix bas en France.
Voilà, propos recueillis par Carole Ferry pour Europe 1. Une violente explosion s'est produite hier soir dans un bar tabac de Limoges. L'information est donnée par nos confrères du Populaire du Centre. Le propriétaire du bar s'est enfermé dans la cave après une dispute familiale. Il a, semble-t-il, ouvert le gaz qui a provoqué une très forte déflagration. Il y a 2 blessés graves, le patron de l'établissement et un pompier. Et puis toujours en bref, cet accident hier dans le Val d'Oise, le frein à main d'une voiture garée en pente a, semble-t-il, lâché. Le véhicule s'est mis à rouler. Il a percuté un groupe d'enfants d'une école maternelle. On compte 4 blessés légers. Une petite fille de 4 ans qui a été écrasée par le véhicule est plus gravement touchée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Dans l'actualité également ce matin, 160 chiens et chats saisis à Paris. La police a contrôlé plusieurs animaleries et placé en garde à vue 8 personnes. Problème de vaccination, faux certificat vétérinaire, animaux achetés dans les pays de l'Est en dehors de tout contrôle. Voilà pour les soupçons. Virginie Salmen, cette descente de police, elle a eu lieu dans un quartier où se concentrent justement plusieurs animaleries.
Oui, certains Parisiens l'appellent le marché de la honte. Pourtant, il aura fallu des centaines de plaintes de clients déposées depuis plus de 20 ans pour aboutir à ces perquisitions. Des clients qui ont acheté un chat ou un chien qui est tombé malade, voire qui n'a pas survécu. Finalement, hier, des dizaines de policiers et de douaniers ont débarqué sur le quai de la Mégisserie, bouclé le secteur et sorti les animaux des cages un par un pour les confier à la SPA parce qu'il y a avant tout un risque sanitaire, explique Caroline de la brigade antitrafic de la SPA.
Mais en fait, c'est comme ils n'ont pas été vaccinés convenablement, à temps, tout ça. Bon, ils peuvent être porteurs de rage. Bon, ça, c'est ce qu'on essaye de déceler en premier. Ils ont tous les problèmes de chiots aussi mal sevrés. Donc ça peut être des troubles fonctionnels. Le chien, voilà, qui a un problème, hein, malheureusement, au cerveau parce qu'ils ont été sevrés trop tôt. La maladie de Carré, pour les bébés qui sont mal vaccinés, tout ça, quoi.
Alors, ces chiens et ces chats étaient achetés, par exemple, 150€ en République tchèque ou en Hongrie et revendus 1500€ à Paris. Et des animaux mis en vente très jeunes, souvent pas encore sevrés pour que la reproduction aille vite. Du coup, les vaccins administrés trop tôt n'étaient pas toujours efficaces, ce qui pourrait valoir des ennuis à au moins un vétérinaire qui a été placé en garde à vue avec 7 autres personnes dont les propriétaires de ces magasins.
Un reportage de Virginie Salmen. Et toujours à propos d'animaux, on a appris hier soir la mort de l'ours Balou. On avait beaucoup parlé de lui en 2006 lorsqu'il avait été lâché dans les Pyrénées. On se souvient de la polémique. Eh bien, Balou a été retrouvé mort, sans doute victime d'une chute. Il reste aujourd'hui dans les Pyrénées environ 25 ours.
C'est pour ça que je préfère les ours en peluche, oui, parce qu'ils ne quittent jamais.
Merci.
Vous avez raison. Alors, restez, tiens, restez.
Europe 1, 6h38.
Retrouvez la chronique Innovation avec EDF.
Ce matin, Maxime, il y a de la cohérence dans votre innovation, puisque vous nous parlez d'un designer néerlandais un peu fou qui a eu une idée un peu folle.
Oui, il s'appelle Dave Hackens. On a déjà parlé de lui ici même. C'est lui qui avait inventé un téléphone portable en kit, un téléphone qu'on assemble chez soi, un peu comme un Lego. L'idée était géniale. Là, Hackens change complètement d'univers. Il s'est mis en tête de créer une machine qu'on pourrait tous avoir chez nous, une machine capable de recycler très facilement toutes les bouteilles en plastique que nous consommons.
Mais comme ce garçon est très productif, j'imagine que sa machine a recyclé déjà au point, ça y est.
Évidemment, le prototype est au point. Il est encombrant, c'est vrai, mais au point. Encombrant parce que vous avez trois étapes différentes. D'abord, vous avez un broyeur. Vous allez mettre vos bouteilles à l'intérieur, sans les bouchons, et elles vont ressortir sous la forme de petites paillettes de plastique. On passe à la deuxième étape. Ces paillettes vont être chauffées à basse température dans un four hermétique pour éviter évidemment les odeurs. Vous obtenez une sorte de pâte visqueuse que vous allez placer dans un des moules de votre choix.
Il faut une usine, quoi.
Il y a un peu de ça. C'est la troisième étape. Au final, vos bouteilles vont se transformer en abat-jour, en vase, en chandelier. Ça, ce sont les exemples donnés par notre ami designer néerlandais.
Et il espère vraiment qu'on aura tous ça un jour chez nous. Ça paraît quand même un peu compliqué, votre engin. Et puis, au-delà du 30e abat-jour, qu'est-ce qu'on va en faire de ces moulages plastiques?
Bon, alors, je suis d'accord, ça paraît compliqué. Et visiblement, Dave Hackens aussi est d'accord. Il a conscience que sa machine est encore un peu complexe et qu'il faut l'améliorer. C'est pour ça qu'il a mis les plans à disposition sur Internet. Tous les géotrouve-tout du monde entier peuvent les récupérer, les modifier, les simplifier. Avis aux amateurs, vous êtes candidat?
Je suis assez peu branché technique, moi. Mais... enfin, en tout cas, c'est l'innovation participative ce matin, grâce à Maxime Souhaité. Il faudra qu'on remette les Oscars de l'innovation à la fin de la saison.
Ah oui, c'est vrai.
On verra si notre ami Dave Hackens aura une chance. Merci Maxime.
C'était la chronique Innovation avec EDF. Découvrez d'autres inventions et innovations sur pulse.edf.com.
Europe 1, il est 7h20. Thomas Sauton.
Et vous reconnaissez la petite musique du journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix. Jérôme, pour une première journée, on a eu droit hier à du soleil et des sourires.
C'est bientôt l'hiver au Brésil, mais la température dépasse régulièrement les 30 degrés 25 hier lors du premier entraînement des Bleus. Avancé d'une heure, histoire de se caler sur les conditions de l'horaire du premier match, dimanche contre le Honduras. Mais la chaleur, elle était surtout humaine hier. Écoutez cette ambiance, 10 000 personnes pour ce premier entraînement. Et dans 95% des cas, si vous tapiez sur l'épaule d'un spectateur, il vous répondait en brésilien. C'est un public local qui a répondu présent. Et à la fin de l'heure de séance, rythmée et intensive, eh bien on s'arrache les bleus. Un autographe, une photo parmi les plus acclamés, Benzema, mais aussi Pogba ou encore Olivier Giroud, ce dernier sincèrement touché.
Il y a beaucoup de personnes qui nous ont très bien accueillis et ça fait chaud au cœur forcément. On avait pu le constater l'année dernière lors de la tournée, les Brésiliens adorent le foot et sont des gens passionnés de ce sport et qui plus est, ils aiment bien la France, donc c'est tant mieux pour nous, on va essayer de grappiller quelques supporters.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie, elle est donc loin, la Coupe du Monde sud-africaine où les Bleus s'entraînaient.
Il n'y a pas de là, hein, c'est bien, ça, non, c'est, ah, voilà. Ça fait du bien
ça,
aux oreilles.
Ça,
oui.
Dans les stades, il n'y en aura pas, les Bleus s'entraînaient alors protégés par des barrières électrifiées. Trois autres entraînements seront ainsi ouverts pendant la phase de poule, pas celui d'aujourd'hui, dont le premier quart d'heure uniquement sera ouvert aux médias. La séance est prévue à 16h là-bas, 21h en France.
Voilà, et au milieu de ce planning chargé, les Bleus ont pris le temps de se prêter un petit jeu quand
même. Un site internet de musique en ligne leur a demandé de lister leurs chansons préférées. Alors, comme attendu, on trouve pas mal de rap américain, genre ceci.
Beyoncé.
Ça, c'est Beyoncé. Aux antipodes, on trouve aussi ça.
C'est qui Céline Dion. Quel joueur.
Pour que tu m'aimes encore. C'est dans la playlist de Karim Benzema, vous voyez.
Ah ouais.
Il
n'y
a pas que Teddy Riner qui écoute Céline Dion. Il
Incroyable.
L'avait bien à votre micro. Alors globalement, c'est très éclectique. On trouve aussi un groupe en très bonne position. Coldplay qui apparaît chez Cabaye, Giroud, Loris ou encore Michael Landreau. C'est pas franchement encore brésilien comme ambiance.
Non, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça leur donne du rythme et que ça donne du rythme au jeu. Le journal de la Coupe du Monde, tous les matins, 6h40 sur Europe 1. Demain, Jérôme.
Europe 1, le journal de la Coupe du Monde. Avec France Football.
Europe 1, 6h42.
Dans un instant, on ouvre le kiosque d'Europe 1. Ce matin, dans la presse, ça s'en va et ça revient. Il y a ceux qui partent et ceux qui arrivent.
Europe 1, 6h46, Thomas Sauton.
Le rappel des titres, l'infoservice, toute la matinée. Europe 1 vous aide à circuler. Baptiste Cordier à la SNCF. Les cheminots sont en grève et le mouvement est très suivi. Trafic déjà très fortement perturbé.
Oui, seuls 3 intercités sur 10 circulent entre un tiers et la moitié des TGV. Côté TER, les 2 tiers des trains sont annulés. Et en région parisienne, il y a une rame tous les quarts d'heure seulement sur la ligne D du RER.
Voilà, trafic évolutif. On vous met tout ça en direct sur europe1.fr. On vous retrouve, Baptiste, toutes les demi-heures. Et nous serons en direct de la Gare du Nord à Paris tout à l'heure dans le journal de 7h avec Michel Grossior. Les taxis se mobilisent également. Mobilisation et mouvement de protestation européen contre la concurrence qu'ils jugent déloyale des VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Et puis l'ONU très inquiète de la situation en Irak après 4 jours de combat. Mossoul, la deuxième ville du pays, est tombée entre les mains des islamistes. Le premier ministre irakien en appelle à l'aide internationale. La météo de ce mercredi, beaucoup de nuages ce matin, mais ensuite du soleil sur toutes les régions qui bordent la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Attention aux orages, encore une fois dans l'Est, en région Rhône-Alpes, en Auvergne et dans la vallée du Rhône. Température de 23 degrés à Lens, à 36 degrés à Montpellier, il fera 24 à Paris, 28 à Marseille, 33 à Lyon.
Europe 1, 6h47.
Le kiosque sur Europe 1 avec Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits. KyoceraDocumentSolutions.com.
Thomas Sauté.
Évidemment, Julie, vos quotidiens vous parlent beaucoup du sujet qui risque de vous agacer ce mercredi, c'est la grève, à commencer par Le Parisien qui reprend l'expression que vous allez sans doute entendre, voire prononcer dans la journée en tentant de grimper dans un train ou d'attraper un taxi. Quelle galère! Le pays est-il irréformable, se demande La Croix, qui titre « La France face à ses blocages ». Autre grille de lecture, en une de l'Humanité cette fois, massivement en grève, les cheminots au secours du transport ferroviaire. Décidément, même quand les trains n'arrivent pas à l'heure, chacun voit midi à sa porte. Dans la presse régionale, c'est une couleur, le noir, qui revient le plus souvent. Journée noire dans les transports, écrivent à l'unisson l'Indépendant, Nice Matin ou encore l'Est Éclair. Tout ça nous donne un printemps social, conclut Midi Libre.
Et il y a du remaniement dans l'air également, Thomas.
Oui, ce dont Antonin André nous parlait tout à l'heure, hein, ce que Libération appelle le grand ménage de printemps parmi les conseillers politiques de François Hollande. Il y aura donc 4 départs, dont celui de Claude Cérillon ou du conseiller économique de l'ombre Emmanuel Macron. Macron remplacé par Laurence Boone, une forte tête à l'Élysée, écrit le Figaro, à propos de celle qui hier encore était la chef économiste Europe de Bank of America, Merrill Lynch. Laurence Boone qui, le mois dernier encore, écrivait dans l'opinion « Arrêtons le massacre », une chronique dans laquelle elle fustigeait la politique du gouvernement, dénonçant un énième coup de rabot synonyme de non-choix. Elle symbolise un peu Laurence Boone, comme nous le rappellent les Échos, cette finance dont François Hollande avait fait son ennemi lors de la campagne de 2012.
Autre nomination plus surprenante, celle-là, celle de Nathalie Yanetta.
À 42 ans, la journaliste foot réputée et appréciée des abonnés de Canal, devient donc chargée des sports à l'Élysée. C'est une grande fierté, confie-t-elle à Aujourd'hui en France. Alors à ceux qui se demandent ce qu'elle va faire là-bas, elle répond « On m'a surtout proposé de suivre l'organisation de l'Euro de football qui se déroulera en France dans 2 ans. Le quotidien qui précise qu'elle quittera Canal+ vendredi après 19 ans de bons et loyaux services sans 1 euro d'indemnité. »
Enfin, il y a un autre conseiller dont on risque d'entendre parler.
C'est l'Express qui le révèle ce matin. Fawzi Lamdaoui, chargé des questions d'égalité et de diversité à l'Élysée. Il se trouve au cœur d'une enquête judiciaire soupçonnée de fraude fiscale. C'est une affaire dont on risque d'entendre parler et d'entendre parler beaucoup dans les prochains jours.
Europe 1, il est 6h49.
C'était Le Kiosque sur Europe 1. Mobilité, dématérialisation, sécurité. Le blog Document World de Kyocera vous apporte des réponses concrètes. Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits. KyoceraDocumentSolutions.com.
À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Thomas.
Aujourd'hui, une plage emblématique de Marseille qui pourrait être en partie privatisée.
Oui, c'est la fameuse plage des Catalans, l'unique plage du centre-ville de Marseille, rappelle Aujourd'hui en France, sur laquelle déjà, après un viol il y a 3 ans et l'agression d'un policier l'été dernier, un quota a été instauré. 2 mètres carrés par estivant, ça fait pas beaucoup. 1000 baigneurs, hein, pas plus. Mais à l'approche de l'été, c'est l'asphyxie qui menace de nouveau. 20% du site pourrait donc ne plus être public pour tenter d'enrayer la fuite des Marseillais vers le Var et ses plages privées en juillet-août. On veut garder cet argent et cette attractivité, explique un élu. Les riverains, eux, attendent plus de sécurité. Si la mesure peut attirer une nouvelle population, dit l'un d'eux, pourquoi pas ? L'opposition, en revanche, à Marseille, compte s'opposer au projet.
Affaire à suivre à quelques jours de l'été. Merci Marion Calais. Ils font bouger les régions. Raphaël Maillochon, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour.
Vous nous emmenez ce matin dans le Languedoc-Roussillon. Les médecins ne sont pas toujours bien préparés ni très habiles au moment d'annoncer à un patient qu'il souffre d'une maladie parfois grave. Eh bien, à Montpellier, Raphaël, un chirurgien a décidé de donner des cours de théâtre, oui de théâtre, à ses étudiants en médecine pour les former. C'est tout simplement une première.
Et oui, et celui qui en a eu l'idée, c'est Marc Ichoux, le directeur du pôle cancer dans le Sud-Ouest. Il est parti d'un constat simple, l'annonce aux patients de leur pathologie est souvent trop brutale, pas assez humaine. Les patients ont l'impression que l'on ne s'adresse pas à eux directement, mais à leur maladie. Il a donc décidé de former les médecins à la source, c'est-à-dire à la faculté de médecine directement en quatrième année. Alors chaque après-midi, avec l'aide d'un metteur en scène, il prend en charge un groupe d'une vingtaine d'étudiants. Pas de décor, pas de costume. L'idée n'est pas de faire de ces futurs médecins des virtuoses du théâtre, mais de se servir de cet outil pour qu'ils annoncent de la meilleure des façons les diagnostics souvent difficiles à entendre aux patients et à leurs familles.
On prépare avec eux par petits groupes une scène simple. Vous devez annoncer à une patiente que la biopsie de sa tumeur du sein montre qu'il y a un cancer et qu'il faut faire une chimiothérapie. On leur donne quelques mots-clés. Après, j'interviens quand ils n'arrivent pas à trouver les mots, les bonnes phrases. Mais après, ce n'est pas le contenu sur lequel vraiment on travaille. C'est vraiment la façon, comme savoir bien lui serrer la main et l'accueillir, l'écouter avant de parler, la position sur la chaise, savoir écouter, faire des silences de temps en temps quand il y a besoin. C'est cette prise de conscience de l'image que reflète le médecin en dehors des mots et du diagnostic qu'il énonce, c'est la façon de l'énoncer sur laquelle on travaille.
À Montpellier, l'université a déjà signé un partenariat avec le Conservatoire d'art dramatique de la ville pour pérenniser cette idée. Plus de 240 élèves médecins sont formés chaque année grâce à ces ateliers et la méthode fait des envieux puisqu'on vient de toute la France poursuivre ces ateliers de théâtre.
Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Maillochon. Si vous voulez faire un don pour soutenir cette initiative, rendez-vous sur le site ligue-cancer.net. Merci et bonne journée, Raphaël.
Bonne journée.
Europe 1, 6h53.
Les nerfs qui lâchent, un bébé secoué et trop souvent au bout, la mort, le décès du nourrisson. Ce matin, le docteur Lemoine tire le signal d'alarme sur une pratique qui peut tous nous concerner. Pourquoi il ne faut jamais secouer un bébé? C'est la question santé d'Europe.
6h56, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto.
Parfois, avec la fatigue, les cris répétés des bébés, la tension inévitable après une naissance, les nerfs des parents lâchent et ils secouent leur bébé. Docteur Lemoine, les bébés secoués, il faut le dire haut et fort, ça peut avoir des conséquences dramatiques.
C'est aussi dramatiquement simple. Excédés par les pleurs, fatigués, les nerfs à fleur de peau, des parents ou des babysitters craquent nerveusement, empoignent le bébé, le secouent violemment pour le faire taire. Une fois suffit et cela n'a rien à voir avec un choc. On ne peut pas faire la confusion avec une chute de la table allongée, par exemple, qui est bien évidemment la première explication des parents qui se sentent coupables. Autre excuse évoquée, on jouait, je l'ai un peu secoué, disent les parents ou la nounou. Impossible, le secouement est un geste violent, pas maladroit ou malencontreux, pas un geste de la vie quotidienne, je le répète, il ne peut être que volontaire compte tenu de sa violence.
Mais qu'est-ce qui se passe, docteur, dans la tête, la petite tête d'un bébé au niveau de cet organe quand on le secoue ?
C'est l'espace qu'il y a entre le cerveau et la boîte crânienne qui explique le mécanisme et les conséquences. Le cerveau bouge brutalement et s'écrase contre l'os. D'ailleurs, cet espace est plus important chez les garçons. Cela explique pourquoi il représente 60% des victimes.
Mais jusqu'à quel âge secouer un bébé peut être mortel ?
Jusqu'à l'âge d'un an, après le cerveau ayant pris toute sa place, il ne peut plus bouger.
Bon, l'issue n'est heureusement pas toujours aussi dramatique. Pour autant, un bébé secoué risque-t-il d'autres séquelles? Invisibles d'ailleurs, peut-être, d'ailleurs dans un premier temps, Jean-François.
Le taux de mortalité est quand même de 10 à 40%. Mais effectivement, un seul secouement peut handicaper à vie et les lésions cérébrales se traduire par des défauts moteurs, visuels, intellectuels et comportementaux. Et il faut des années pour s'en rendre compte. Et
est-ce qu'il y a des signes extérieurs reconnaissables si on a des doutes sur une nounou, sur son conjoint ou sa conjointe?
Si ce ne sont pas les parents qui sont responsables, ils vont amener leur enfant qui inévitablement ne va pas bien à l'hôpital. Là, les médecins vont se poser la question. Mais en cas de dissimulation, eh bien, c'est un devoir pour nous tous de signaler le moindre doute. Le bébé secoué a le droit d'être reconnu et traité comme victime d'une infraction pénale. D'ailleurs, 3 hôpitaux pédiatriques parisiens, la police et la justice, vont désormais mieux collaborer pour prévenir cette maltraitance. Un accord a été signé le 2 juin.
La question santé du docteur Lemoine, qui se trouve donc aux États-Unis pour un congrès, c'est tous les matin à 7h05 sur Europe 1. On vous retrouve demain matin, Jean-François. Bonne journée à vous.
À demain.
Europe 1, 6h59. Avant le journal, la météo, Laurent Cabrol.
Alors, Laurent.
Oui, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est un temps qui est orageux dans les régions de l'Est et du Sud, enfin de l'Est essentiellement, et du Massif central, avec du soleil près de la Manche et près de l'Atlantique. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Ce que je voulais vous donner, c'était la tendance pour les jours à venir. Pas de chaleur excessive dans l'ensemble pour les 10 jours qui viennent, souvent des éclaircies, des températures relativement chaudes et raisonnable. Mmh. Voilà pour la grande tendance. Demain et après-demain, ce seront les mêmes conditions météo qu'aujourd'hui, avec chaque fois une amélioration progressive et continue. De sorte que les orages que nous allons retrouver aujourd'hui en Alsace, dans les Vosges, le Mâconnais, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, l'Auvergne, la vallée du Rhône et les Pyrénées seront encore là demain et après-demain. Mais chaque fois, ils seront de moins en moins nombreux et de moins en moins violents.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Nous sommes mercredi 11 juin. Europe 1, il est 7h.
Bienvenue et bonne matinée à tous.
6h-9h, Thomas Soto sur Europe 1.
L'actualité en trois titres. Pagaille dans le rail avec la grève des cheminots, mais également dans les villes avec la mobilisation des chauffeurs de taxi qui prend aujourd'hui une ampleur européenne. C'est une première. Les crevettes que l'on trouve au rayon poisson des grandes surfaces en provenance d'une société thaïlandaise qui réduit ses employés à des esclaves. Incroyable révélation à suivre. Et puis 4 salariés sur 10 se disent victimes d'incivilité au travail. Ça commence par l'oubli de dire bonjour. Le journal de 7h, bonjour donc Michel Grossior.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. La journée s'annonce rude pour les voyageurs de la SNCF. Plus de 4 cheminots sur 10 devaient en effet cesser le travail aujourd'hui pour protester contre la réforme prévoyant le rapprochement de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Tout de suite donc, direction Gare du Nord à Paris. Un trafic correspondant aux sombres prévisions, Pascal Berthelot.
Oui, un train sur trois en moyenne et surtout beaucoup de voyageurs en retard ce matin ici, Gare du Nord à Paris. Beaucoup de voyageurs énervés qui attendent un train décalé sur les quais des Franciliens, les trains de banlieue. Des voyageurs qui ont bien du mal, Michel, ce matin pour aller travailler.
C'est horripilant, on est toujours ou en grève, ou train retardé, ou train supprimé. Voilà.
Et là, ce matin, vous deviez prendre quel train ?
Eh ben, on devait prendre directement 6h26. Il est à 7h10. Comme ça, on sera directement en retard là, c'est inscrit là. Et on sera encore en retard à notre travail. Voilà.
Sur les grandes lignes, Michel, ici, Gare du Nord, pas de soucis à l'international. Le trafic est normal vers Londres sur Eurostar. Pas trop de soucis, un TGV sur deux pour Lille. Grosse galère, en revanche, sur les RER B et D en région parisienne. Certaines destinations au nord de Paris ne sont carrément pas desservi toute la journée aujourd'hui.
Merci Pascal Berthelot. Et donc la grève est reconductible par période de 24 heures. Rendez-vous ce soir. Donc autre difficulté, la mobilisation des taxis à l'échelle européenne contre la concurrence des voitures de tourisme avec chauffeur. Leur bête noire, on le sait, c'est la société Uber. Gros risque donc de pagaille dans les grandes villes en France. Cheminots, taxis, intermittents du spectacle, de plus en plus menaçants, les festivals sont en péril. L'ouverture du festival d'Anjou avec Francis Perrin a été annulée. La France confrontée aujourd'hui donc à une conjonction de blocage. Pendant ce temps, les députés socialistes frondeurs donnent de plus en plus de la voix. Ils sont une centaine à annoncer dans un manifeste qu'ils vont passer à l'offensive pour le pouvoir d'achat des plus modestes lors du débat à venir sur les finances de la sécurité sociale et sur également les finances de l'État. Ce sera une boucherie, une charcuterie, une triperie, avertie dans le Figaro, un de leurs chefs de file, donc opposé à la ligne Hollande-Valls. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement est pourtant obligé d'annoncer de nouvelles économies ce matin au Conseil des ministres, alors que les impôts rentrent moins bien que prévu. Anne-Laure, vous nous révélez la répartition de ces nouvelles coupes.
Oui, il y aura 1 milliard d'euros d'économies pour l'État et tous les ministères vont être mis à contribution. Alors ceux qui vont le plus participer à l'effort sont la Défense, à hauteur de 350 millions d'euros, l'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État, et l'écologie. Pour le ministère de Ségolène Royal, l'État va sabrer dans les dépenses de ce qu'on appelle les opérateurs, vous savez, des agences comme l'ADEME. Alors en général, les ministères vont devoir tailler dans leurs frais de communication, dans les subventions accordées aux associations, ou encore vont être encouragés à vendre des biens immobiliers. Et à Bercy, on vous dit que la logique, eh bien, c'est de ne pas toucher aux dépenses stratégiques comme celles liées au personnel. L'État contraint donc de faire des économies supplémentaires pour respecter ses engagements en matière de déficit. Mais ça aurait pu être pire, car il y a eu une bonne surprise dans le courant de l'année. 1,8 milliard d'euros d'économies sur le financement de la dette, car la France emprunte très peu cher sur les marchés, donc c'est une bouffée d'oxygène bienvenue, puisqu'elle permet à l'État de limiter la casse.
Merci Anne-Laure Jumet. Cécile Duflot n'est plus ministre et sa loi sur le logement n'a plus du tout les faveurs du gouvernement. La construction de logements connaît en effet une telle paralysie qu'un enterrement du texte est en vue, révèle ce matin Europe 1. L'encadrement des loyers qui devait être national sera limité, et encore à la région parisienne, la garantie universelle des loyers ne verra pas le jour finalement. finalement, d'autres mesures de la loi Allure, synonyme de paralysie donc pour les professionnels, ne verront pas plus le jour.
Europe 1, 7h04.
Près de 3 ans après que l'affaire a éclaté, l'ex-urgentiste de Bayonne, Nicolas Bonnemaison, comparé à partir d'aujourd'hui aux assises. Il est accusé d'avoir empoisonné 7 patients en fin de vie, des malades souvent âgés, certes à l'agonie, mais l'ancien médecin, radié par l'ordre des médecins, a utilisé la seringue hors de tout protocole, sans concertation avec les familles. Néanmoins, aucune d'entre elles n'a porté plainte. Écoutez par exemple Patricia, dont le mari, très malade alors, est mort dans le service du docteur Bonnemaison.
La maladie avait gagné. On sentait qu'il partait petit à petit, mais quand même dans des souffrances atroces, insupportables. Tout le monde était là, on était en famille, et on voyait Fernand souffrir. Je voyais Fernand comme ça, je ressortais, et le docteur Bonnemaison était là. J'ai compris que c'était le médecin qui s'occupait de lui à ce moment-là. Et il est venu, il m'a pris quand même dans ses bras, et il m'a dit « vous inquiétez pas ». Je lui ai dit « mais je vous en prie, laissez pas Fernand comme ça, il faut faire quelque chose pour lui ». Et en fait, tout ce qu'on souhaitait, c'était que Fernand parte au plus vite, parce que c'était pas possible. Je savais qu'il était en fin de vie, et je comprenais pas qu'on puisse le laisser comme ça. On a compris entre nous, c'est pas des mots, les mots ça sert à rien dans ce cas-là. Moi, on m'a dit curare au commissariat et je me suis dit, mais bon, ça change quoi? Je fais un combat pour aider le docteur Bonnemaison à s'en sortir parce que c'est impensable. Pour ma part, le docteur Bonnemaison a été là dans la souffrance de Fernand et il était là, présent pour nous aider à ce que Fernand parte dignement.
Des propos recueillis pour Europe 1 par Stéphane Place. Une famille s'est tout de même constituée partie civile, choquée par l'attitude du docteur Bonnemaison qui aurait parié avec un collègue un gâteau sur la mort imminente d'un parent à 86 ans. Ce dernier effectivement était décédé dans la nuit et le docteur avait donc remporté son pari et, nous dit-on, réclamer sa pâtisserie. Ce procès aux assises des Pyrénées-Atlantiques, au cours duquel Nicolas Bonnemaison risque la réclusion criminelle à perpétuité, relance bien sûr les questions sur l'euthanasie.
Ouais, débat relancé d'autant plus qu'un projet de loi pourrait être présenté sur le sujet avant la fin de l'année.
Europe 1, 7h06.
Un nouveau palier est franchi dans la maltraitance sociale dont sont victimes les salariés sur la planète et notamment en Asie. Incroyables accusations contre une société thaïlandaise qui alimente les supermarchés du monde entier, dont la France en crevette les rayons. Révélation du Guardian à Londres, où vous trouvez pour Europe 1, Amandine Alexandre, font en effet froid dans le dos, puisqu'il est question, Amandine, d'esclaves, et parfois même abattus par leur employeur.
Oui, la violence subie par ces hommes et ces femmes est sidérante. Il n'y avait pas de différence pour moi entre la vie et la mort. Voilà ce qu'a affirmé au Guardian un ancien esclave qui a réussi à s'échapper de l'un de ses navires stationnés dans le golfe de Thaïlande. Sur ces navires de pêche, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes vivent l'enfer. Pendant 22 heures par jour, ces immigrés clandestins, originaires pour la plupart de Birmanie et du Cambodge, pêchent des petits poissons qui servent ensuite à alimenter des crevettes d'élevage, des crevettes exportées dans le monde entier par une entreprise thaïlandaise baptisée CP Food. Pour une assiette de riz par jour, ces immigrés triment sous la surveillance de capitaines au comportement barbare. Ils sont détenus parfois pendant plusieurs années, battus, drogués, torturés quand ils ne sont pas tout simplement tués. L'un des esclaves qui témoigne dans Le Guardian affirme avoir vu une vingtaine de personnes tuées sous ses yeux. Certains ont été exécutés d'une balle, d'autres jetés à la mer, leur corps lesté de pierre. Cet esclave rapporte même avoir vu un homme se faire écarteler.
C'est absolument hallucinant.
Stupéfiant.
Merci Amandine Alexandre. Dans tous les cas, le distributeur Carrefour, qui se fournit auprès de cette société thaïlandaise, CP Foods, a fait savoir hier soir à Europe 1 qu'il pensait à cesser désormais tout lien avec cette entreprise.
Europe 1, 7h08.
Sitôt installée, sitôt portée par la ferveur brésilienne, l'équipe de France encouragée par les supporters enthousiastes hier, donc pour son premier entraînement. Les Bleus bénéficient d'un élan de sympathie en France, à 60% selon un sondage. On vibre donc tous pour l'équipe de France, à pied d'œuvre et au travail. Les incivilités au travail, rien à voir avec ce que je viens de dire. Plus de 4 salariés sur 10 se disent victimes selon un sondage réalisé pour un cabinet de prévention, Eléas. Hélas, a-t-on envie de dire, Jeanne Daudet, chacun peut témoigner de ce manque de respect au quotidien.
Oui, vous allez peut-être vous y retrouver. Selon cette étude, il y a 3 nuisances principales. La première, c'est lorsqu'un collègue passe ses coups de fil à côté de vous en parlant très fort. Vous savez, celui qui vous fait partager gracieusement son intimité. Ouais. En 2, vous avez celui qui vous interrompt dans votre travail sans faire attention. Enfin, en 3, vous avez
le gobelet de café sale qui traîne absolument n'importe où. Autre exemple, avec Julie qui travaille dans un open space à la Défense.
On arrive le matin, personne vous dit bonjour, on sort dans l'ascenseur, personne vous dit bonne journée. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais chaque jour, personne le fait. Et là, franchement, oui, je suis hallucinée. J'ai l'impression de revenir au collège ou au lycée avec des gamins, alors que c'est des gens qui ont 40 ans, 50 ans. C'est pesant.
Et notre Julie, à nous, dans le studio, n'a pas à se plaindre d'incivilité de notre part.
Ça va.
On est gentil avec vous, Julie.
Jamais de la vie. Oui, très gentil, très gentil.
Elle ne prend pas l'ascenseur, elle prend l'escalier, Julie.
Voilà. Déjà. Et ces incivilités peuvent être anodines la plupart du temps, mais mises bout à bout, elles peuvent occasionner une vraie souffrance. Xavier Alas-Luquetas, président d'Eleas.
Plus vous êtes exposé à ces attitudes, aussi minimes soient-elles, plus vous vous affaiblissez dans l'estime que vous avez de vous-même et dans la confiance que vous avez en vous. Et ce qu'expriment beaucoup les personnes, c'est que, au travers l'incivilité, elles ne sont pas prises en compte comme des personnes, mais plutôt comme des choses.
Et ce que met en avant cette étude, c'est aussi ce chiffre. Pour un tiers des salariés interrogés, ces incivilités peuvent même aller jusqu'à l'arrêt maladie.
Alors je vous dis merci Jeanne Daudet, au revoir et je vous tiens
revoir,
à la
Michel.
Portée du studio.
Quel gentleman.
N'oubliez pas votre gobelet quand
ouais,
même.
Ouais, mets-toi à la table.
Merci Michel.
Merci.
Europe 1, 7h10.
Page jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises, vous présente le Zoom Echo.
Thomas Soto.
Restructuration massive en vue chez Bouygues Télécom. Axel de Tarlé, l'opérateur, présente tout à l'heure en comité central d'entreprise son nouveau plan stratégique avec à la clé sans doute près de 2000 suppressions d'emplois.
Oui, Bouygues, comme on le sait, a énormément souffert de l'arrivée de la concurrence de Free il y a 2 ans et demi, qui a fait chuter les prix de 30% dans le mobile, si bien que Bouygues Télécom est devenu déficitaire. Donc cet après-midi, la direction annonce un plan d'économie massue, avec, vous l'avez dit, près d'un poste sur 4 supprimé, notamment dans tout ce qui est marketing. Bouygues Télécom va faire le ménage dans le maquis de toutes ses offres commerciales. Vous savez qu'il existe aujourd'hui plus de 700 forfaits différents chez Bouygues Télécom. Alors voilà pour le volet défensif de ce plan de restructuration. Mais Bouygues Télécom présente aussi un volet offensif. Bouygues Télécom va déclarer la guerre dans le fixe. Au fond, avec l'arrivée de Free, les prix ont chuté dans le mobile. Et bien maintenant, Bouygues veut créer la même pagaille, mais dans le fixe, et faire chuter également les prix de 30%. Aujourd'hui, le tarif de base pour une box triple play, c'est 30€ par mois. Et bien, Bouygues Télécom veut mettre ce standard à 20€ par mois. Bref, Martin Bouygues nous annonce la saison 2 de la guerre des télécoms. Après massacre dans le mobile, voici massacre dans le fixe.
Est-ce que c'est pas un peu suicidaire comme stratégie? Parce qu'avec cette nouvelle guerre des prix, ça va peser sur les marges et donc Bouygues va encore perdre plus d'argent.
Tout à fait. Il y a un côté terre brûlée revendiqué dans cette stratégie. Le raisonnement de Bouygues Télécom, c'est de dire que Free a tué le mobile, où Bouygues gagnait beaucoup d'argent. Eh bien, réponse du berger à la bergère, Bouygues va tuer le fixe, où Free gagne beaucoup d'argent avec des marges de 40%. Oui, c'est une stratégie de guerre totale jusqu'à épuisement des forces. Alors la solution pour mettre fin à ce qu'il faut bien appeler un massacre, la solution on la connaît, c'est la fusion. Mmh. C'est passer de 4 à 3 opérateurs. C'est probablement comme ça que cela va se terminer. On sait que Bouygues pourrait finir par se vendre à Orange ou Bouygues pourrait fusionner avec Free. Mais justement, en menant cette stratégie de guerre totale, Martin Bouygues se met en position de force. Il le dit, l'armistice sera signé, mais à mes conditions. Et donc je vendrai Bouygues Télécom à très bon prix, à mon prix. Sinon, le message, c'est nous mourrons tous sur l'autel débridé de la concurrence totale.
La stratégie kamikaze de Bouygues Télécom, décryptée ce matin par Axel de Tarlé. C'est le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Merci Axel.
C'était le Zoom Echo avec Page Jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises. Professionnels, retrouvez nos solutions digitales au 0805 0805 20.
Europe 1, 7h13.
On évoquait les grèves dans le journal de Michel Grossiore à l'instant. Voilà bien un sujet qui fâche en France. Les grévistes sont des feignants pour les uns, ont raison de se battre, répondent les autres. Quoi qu'on en pense, les corporatismes sont-ils en train de bloquer le pays, de le rendre irréformable, comme le titre La Croix ce matin? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1.
Europe 1, 7h17, Thomas Soto.
Le rappel des titres, vous êtes peut-être coincé dans les bouchons ou à patienter sur un quai de gare. Europe 1 vous accompagne et vous aide à circuler en ce jour de grève. Baptiste Cordier, comme annoncé et c'est bien une journée de galère qui commence.
Oui, la circulation est réduite à 1 TGV sur 2 dans le nord et dans l'est, 1 sur 3 partout ailleurs. Et le trafic est tout aussi perturbé au niveau régional. Exemple, en Midi-Pyrénées, 50% des TER sont annulés. Et vous parliez des bouchons, il y en a actuellement 220 km en région parisienne.
Voilà, nous serons à Marseille dans le journal de 7h30 en direct. Le trafic en temps réel sur les routes et pour les trains, c'est sur Europe1.fr. Un nouveau conseiller de François Hollande dans la tourmente, Fawzi Lamdaoui, chargé des questions d'égalité à l'Élysée et visé par une enquête préliminaire. Il est soupçonné de fraude fiscale. Et puis la France reste une cible privilégiée d'Al-Qaïda. C'est la conviction de Loïc Garnier, le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, le dit ce matin dans le Figaro. La météo, beaucoup de nuages ce matin, mais ensuite du soleil sur toutes les régions qui bordent la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Attention aux orages dans l'Est, en région Rhône-Alpes, en Auvergne et dans la vallée du Rhône. Température de 23 degrés à Lens, à 36 degrés à Alès. Il fera 24 à Paris, 26 à Nantes, 28 à Marseille, 33 à Lyon.
Les taxis, les intermittents, les cheminots manifestent leur mauvaise humeur aujourd'hui. Mais à force de défendre chacun leur clocher, les corporatismes sont-ils en train de paralyser le pays? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1.
Et pour y répondre, je reçois Mathieu Laine, directeur de la société de conseil Altermine et disons-le plutôt libéral. Bonjour Mathieu Laine.
Bonjour Thomas.
Est-ce que c'est pas un peu facile de dire oui, ce sont les corporatismes, de fondre sur les revendications des uns et des autres qui seraient nécessairement des caprices d'enfants gâtés?
Ben pas du tout, au contraire. Enfin, finalement, moi je pense que la France est un pays de petits rentiers et qui n'arrive pas à voir loin, qui n'arrive pas à se réformer. Et pourquoi ? Parce qu'elle a une espèce de maladie génétique, c'est le péché des Capétiens. On a fait dans ce pays l'unité de monde qui était varié, de langues différentes, de cultures différentes, etc. Mais parce que finalement la France est devenue un État avant d'être une nation. Et même la monarchie a distribué des rentes en permanence pour essayer de préserver son pouvoir. Et aujourd'hui, on est resté dans cette logique de l'histoire. C'est une logique quasiment génétique qui fait qu'on n'arrive pas à se réformer en continuant à maintenir des rentes à des gens qui finalement... Et c'est légitime, et c'est eux-mêmes de défendre leur propre vie.
Ils se battent pour essayer de vivre correctement, sans les syndicats aujourd'hui, sans la vigilance des corps intermédiaires. Le code du travail serait réduit à deux articles, hein. Article 1 marche et article 2 tais-toi.
J'adore la caricature sur Europe 1 à 7h15, voilà la question qui fâche. Il va de soi que dans un monde qui serait beaucoup plus réformiste, on aurait finalement beaucoup plus de liberté pour chacun pour se déployer, et un vrai sens du progrès. Regardez ce qui se passe avec les taxis aujourd'hui. Le fait qu'on veuille interdire la géolocalisation des VTC qui sont leurs concurrents, qui est juste le fruit du progrès. C'est un peu comme les marchands de chandelles qui voudraient faire la grève contre le soleil. C'est un peu comme le maréchal Ferrand quand il a vu arriver la voiture.
C'est bien parce que là vous êtes pas du tout caricatural,
Mathieu. Non,
parce que
ce sont des vraies logiques d'histoire.
La vérité des taxis, c'est aussi Thomas. Qu'ils travaillent comme des chiens, qu'ils sont pas milliardaires. Faut arrêter de les considérer comme des rentiers. On peut les trouver pas sympas, pas toujours aimables, mais ils travaillent comme des chiens, les taxis,
bien
aujourd'hui.
Bien sûr. Et c'est encore une fois légitime qu'ils essaient de défendre un peu leurs intérêts. Cependant, les intérêts individuels de certains vont à l'opposé des intérêts collectifs. Et il est certain que le vrai danger, la vraie difficulté de cette histoire, c'est que les politiques ne réforment jamais ce pays parce qu'ils cèdent en permanence à ces blocages, ils cèdent en permanence à toutes les personnes, enfin certaines des personnes qui peuvent bloquer les rues, et tout le monde ne peut pas le faire. Ça donne un pouvoir considérable, et c'est pour ça que ce sont des rentiers, un pouvoir considérable à ces gens, et que si on réformait véritablement ce pays, on aurait la possibilité de retrouver un emploi, de se réinventer, et finalement même de devenir milliardaire. Moi, je reprends votre mot, c'est que ce pays est en plein nivellement par le bas à force de ne pas se réformer.
Mais vous citiez les politiques en même temps. Est-ce que le problème, c'est pas que le mot réforme rime depuis des décennies avec sacrifice, vivre moins bien, des efforts qui ne donnent pas de fruits, l'économie qui ne va pas mieux? Ça, c'est
d'accord.
La responsabilité des politiques, de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez, depuis 30 ou 40 ans.
Je suis tellement d'accord. La réforme doit faire rêver. Et qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un pays qui, en abaissant les impôts, en assouplissant le droit du travail et en supprimant les rentes illégitimes qui font des petites rentes avec des gens qui gagnent effectivement assez peu et qui s'accrochent à leurs petits intérêts.
Vous gagnez assez peu et vous gagnerez encore moins, il faut vous y faire.
On peut gagner évidemment beaucoup plus, chacun, si on a un système plus libre, plus ouvert, respectant le progrès. Vous imaginez aujourd'hui qu'on va aller créer des lois, voter des lois pour aller contre le progrès et l'intérêt de vous-même, de tout le monde, de vos auditeurs, tout simplement parce que vous avez le progrès qui permet à des VTC de venir vous chercher grâce à une application internet pour préserver une petite rente d'un certain nombre de personnes qui malheureusement sont bloquées dans le système. Moi je les plains, eux. Je n'ai qu'une envie, c'est que ce pays s'ouvre, se libère, ce qui donnerait la possibilité à chacun de se déployer beaucoup mieux et de gagner beaucoup mieux sa vie.
Ayons le courage de faire de vraies réformes, nous dit ce matin Mathieu Laine, et ça ira mieux pour tout le monde. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1 Direct. Merci, bonne journée.
Europe 1, 7h22.
En d'autres temps, les jours de grève, le patron ou la patronne du MEDEF grimpait quasiment sur les barricades pour faire part de leur indignation. Pierre Gattaz, lui, se fait on ne peut plus discret. Caroline Roux va nous expliquer quelles sont les arrière-pensées du patron des patrons, car il en a. L'info politique de Caroline arrive sur Europe 1.
Europe 1, 7h26, Thomas Soto.
Pendant que certaines professions se mobilisent, pendant que le gouvernement essaye de faire avancer son pacte de responsabilité, il y en a un qui se fait très discret. Bonjour Caroline Roux.
Bonjour Thomas.
Et c'est Pierre Gattaz qui a visiblement décidé de baisser d'un ton, en tout cas pour le moment.
Oui, alors le rendez-vous avec François Hollande de jeudi n'est pas préparé par ses équipes comme un bras de fer. Loin de là d'ailleurs. Pierre Gattaz, habitué, vous le savez Thomas, à jouer le rapport de force médiatique, passe désormais en mode furtif. Il a choisi de tout faire pour que le pacte de responsabilité réussisse, comme le dit d'ailleurs un spécialiste du dialogue social. Il est sur une ligne de crête. Si le pacte de responsabilité ne marche pas, il sera naturellement fragilisé en interne. Et d'ailleurs, il le confie lui-même. Il ne veut pas brusquer, il ne veut pas braquer l'exécutif ou gêner, par exemple, la CFDT. Ce sont en réalité des alliés de circonstances. Alors, on est loin. Très loin, Thomas, du Pierre Gattaz, vous vous souvenez, qui pulvérisait les contreparties au pacte de responsabilité. Ça se passait au bazooka en marge d'une visite d'État de François Hollande aux États-Unis.
Ça avait stupéfait tout le monde.
Exactement. Et lors de son entretien avec le président jeudi, il y aura pas d'oucase, ce sera pas sur ce ton. Il insistera sur trois points concrets. D'abord, l'urgence, ça c'est vraiment un point auquel il tient d'avancer sur le pacte. De la vigilance du MEDEF au moment où une partie de la majorité veut rogner sur les baisses de charges pour les entreprises. Et troisième sujet, tous les autres sujets au fond, qui ne font pas la une, mais qui empoisonnent au quotidien la vie des patrons, par exemple comme le compte pénibilité qui est vécu sur le terrain comme une usine à gaz.
C'est un peu paradoxal, Caroline, vous dites qu'il va baisser d'un ton, mais la semaine dernière encore, son MEDEF cognait comme un sourd sur une baisse de la fiscalité qualifiée de supercherie.
Mais je sais que ça ne vous a pas échappé non plus, que c'était le numéro 2 du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui s'est exprimé dans le Figaro, et les rôles avaient été répartis au millimètre. C'est ce qu'explique un cadre du MEDEF. Pierre Gattaz s'est pris des coups sur la tête, il fait désormais attention, il n'était pas mécontent de passer son tour cette fois-ci. Car comprenez bien ce qui se joue. Il faut aussi relayer la colère de la base qui n'en peut plus d'attendre la concrétisation des promesses sur le pacte de responsabilité, notamment les baisses de charges, etc. Et en même temps, il faut facialement, officiellement, tout faire pour sauver le pacte en coulisses.
Mais ça veut dire quand même qu'il y croit un petit peu, qu'il pense que ce pacte peut aboutir.
Mais c'est pire que ça, il n'a pas le choix. Parce que quand vous parlez avec Pierre Gattaz de ce pacte, eh bien il rappelle que c'est son idée, c'est lui qui l'a vendu au président. Il s'est exposé, alors il pourra toujours, quand même, sortir la sulfateuse pour dénoncer la trahison de l'exécutif si le compte n'y est pas.
Il serait intéressant de voir s'il porte toujours son petit pin, ce 1 million d'emplois là, créé.
On va faire attention.
L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline.
À demain.
Europe 1, 7h28, en route pour la Coupe du Monde. Avec Europe 1 qui vous fait découvrir chaque matin le foot amateur. Jamel entraîne les enfants de moins de 6 ans du club amateur de Lille Fives. Et ses jeunes footballeurs lui réservent de temps en temps bien des surprises.
On a commencé le match à 0-0. Donc nous, on joue en rouge et noir. Et l'équipe d'en face jouait quasiment dans les mêmes couleurs. Et sur l'engagement, on a un de nos joueurs qui prend le ballon, qui va directement vers notre but et qui marque contre son camp et qui est tout content, qui va sur tous ses copains qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc on a dû l'expliquer qu'il avait marqué un but contre son camp et du coup sa joie s'est transformée en tristesse et il a pleuré après. On a dû le réconforter, lui dire que c'était pas grave. De toute façon, il n'y a pas de classement en fait chez les petits, donc on regarde pas les résultats. Et prochain match, ça va, c'était mieux, il a oublié. Et il a fini par marquer pour nous, pour nos couleurs, à la fin.
Europe 1, Carrefour et Carrefour Market soutiennent le football amateur. Rendez-vous sur carrefour.fr pour tenter de faire gagner le club de foot de votre magasin. La météo maintenant avec Laurent Cabrol.
Laurent, parapluie ou notre parapluie tout
d'abord ? Les deux, mon général, avec pour certains d'entre nous du soleil. Toutes les régions qui bordent la Manche et la mer du Nord seront sous le soleil. La Champagne, les Ardennes, la région parisienne, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le littoral aquitain, Pays Basque et bassin méditerranéen, tous ces littoraux seront sous le soleil mais sur une frange de 20 km. Derrière, ce sera un peu plus contrasté. Et puis les orages, ils vont se réactiver dans l'après-midi. Ils sont moins nombreux, moins méchants que ces jours derniers. L'Alsace sera concernée, les Vosges, le Mâconnais, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, les Pyrénées, la vallée du Rhône et les Cévennes. Voici les régions à fort coefficient orageux. Des ondées maintenant sur le Morvan, le Limousin, la Lorraine et un petit peu sur le Midi-Pyrénées. Enfin, les températures qui seront de l'ordre
la Bourgogne,
de 20.
Vous avez dit à faire bon en Bourgogne ou pas, non?
Oui, c'est sur l'est de la Bourgogne, d'accord. Pas l'est. Hein. Le Mâconnais sera sous les orages. 21 à Cabourg aujourd'hui, 23 à Lens, 24 à Paris, 26 à Saint-Nazaire, 28 à Marseille, 32 à Colmar, 31 à Bourgogne, et 33 à Lyon et 36 à Montpellier.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe 1, 7h30, Thomas Sautet.
L'actualité en trois titres, pas facile d'aller travailler ce matin, grève de la SNCF, mais aussi des taxis dans les grandes villes. Nous irons à Marseille et vous entendrez une candidate au bac qui a la boule au ventre ce matin. Au CHU de Rennes, c'est le gaspillage de médicaments à grande échelle. Depuis plusieurs années, des centaines de boîtes sont jetées alors qu'elles ne sont absolument pas périmées. Et puis à la veille du mondial, la présidente du Brésil assure que tout est prêt. Et pourtant, côté pelouse, c'est loin d'être parfait. Le journal de 7h30, Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Des tonnes de médicaments jetés à la poubelle et ça dure depuis 4 ans. C'est la situation ubuesque que dénoncent les syndicats au CHU de Rennes. Des boîtes non consommées et non périmées qui partent à la destruction. Tout ça à cause d'un système informatique compliqué qui tombe régulièrement en panne. Voilà qui mérite quelques explications. François Coulon à Rennes pour Europe 1.
À l'origine du gros gâchis, un partenariat public-privé entre le CHU de Rennes et une filiale du groupe FH, 180 millions d'euros investis dans une pharmacie centrale high-tech. Son système de gestion automatisée des médicaments était inspiré de celui de la Redoute. Dans les faits, engorgement, logiciel incompatible ou défaillant vont conduire à jeter à la poubelle des tonnes de boîtes non périmées. Yves Maurice, syndicat Sud.
Il y a des commandes de doublons qui sont faits et quand ils reviennent des services, on n'a pas les moyens humains pour les restocker. Et du coup, le CHU les fait partir avec les médicaments périmés pour recyclage.
Et ça représente un gaspillage énorme.
Alors, c'est sur 4 ans, plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est sûr que si on continue comme ça, on va atteindre le million d'euros dans peu de temps. Pire, une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines, le robot tombe en panne. Le médicament n'arrive jamais au service, qui refait une commande d'urgence à ce moment-là. Soit on fait des commandes en officine, soit quand c'est des médicaments très rares, on dépêche un coursier pour aller chercher dans une pharmacie hospitalière le médicament. Et on sait qu'il est arrivé une fois où on a envoyé un coursier jusqu'à une ville du sud de la France, Montpellier, alors que le médicament, qui était une molécule rare et coûteuse, était stocké sur le quai et pas enregistré. C'est un scandale.
La direction du CHU reconnaît le gaspillage, mais avoue ne pas avoir trouvé pour l'instant de remède au dysfonctionnement ruineux. Rennes, François Coulon, Europe 1.
François Coulon qui nous informe à l'instant qu'un portique Ecotax breton a été de nouveau visé cette nuit à Brecq dans le Morbihan sur la nationale 165. À cause d'un début d'incendie, l'axe entre Quimper et Nantes est coupé dans les deux sens pour une durée indéterminée. Une nouvelle action à quelques jours de la mobilisation des bonnets rouges prévue samedi à Nantes. On en vient à cette grève qui complique sérieusement la vie des usagers de la SNCF. Aujourd'hui, le trafic est conforme aux prévisions. Un TGV sur deux sur les axes nord et est. 1 sur 3 sur les axes atlantiques, sud-est et les liaisons entre villes de province. Il faut compter en moyenne un tiers des TER et des transiliens. En région parisienne, des perturbations sur toutes les lignes du RER sauf le A. Les salariés ne sont pas les seuls à affronter la galère. Les candidats au bac qui ont des oraux anticipés n'ont qu'une peur, arriver en retard. C'est le cas d'Angélique qui habite Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise et doit passer son oral à Aubonne. Temps de trajet habituel, 3 quarts d'heure, mais là, elle va compter très large.
Je suis convoquée à 14h15, mon épreuve commence, je dois être une demi-heure à l'avance. Donc bon, je sais pas, peut-être vers 9h, je vais partir pour être là-bas vers 13h. Enfin, comme je suis une grande anxieuse, tout ça, ça m'aide pas du tout. Et j'ai tellement peur de pas arriver en avance. C'est les oraux que je dois absolument pas foirer et louper. Mes dossiers, j'y prépare depuis 2 ans presque. Et j'ai vraiment pas envie de me planter à cause d'une grève. Je risque de pas avoir mon bac, avoir un zéro et être éliminée alors que j'ai bossé dur, quoi. Ils nous mettent une grève alors qu'ils savent très bien que le mois de juin, tout le monde passe des épreuves super importantes puisque c'est le bac. Ils ont passé le bac avant nous, je pense, donc c'est vraiment pas sympa de leur part. C'est comme les avions qui font grève pendant les vacances. Ça me met vraiment en colère et je trouve ça égoïste de leur part quand même.
Voilà Angélique qui passe un oral du bac aujourd'hui au micro européen de Julien Pierce.
Voilà, et à propos du bac, dans 10 minutes maintenant, je recevrai une autre candidate, Nadia Robert. Elle va passer le bac dans une semaine. La différence, c'est qu'elle, elle a 53 ans.
Et pour ceux qui prennent leur voiture, des difficultés supplémentaires, la grève des taxis. Ils s'inquiètent de la concurrence des VTC. Elle concerne la région parisienne, notamment les abords des aéroports, mais aussi Lyon, Nice ou Marseille. Nathalie Chevant, c'est donc la conjonction des deux mouvements sociaux qui va compliquer la vie des Marseillais. On risque d'ailleurs de frôler l'asphyxie toute la journée.
Alors écoutez, c'est ce que l'on redoute, mais pour le moment, l'appel des taxis semble avoir pris
beaucoup, beaucoup de retard, car les trois points de blocage prévus sont en train de se mettre en place tout doucement. Il y a l'aéroport, le rond-point des Lavandes, juste avant d'arriver au terminaux. Il y a la gare TGV d'Aix-en-Provence, avec là aussi un point de blocus prévu avant d'accéder au parking. Mais pour l'instant, les taxis se rassemblent place de la Rotonde à Aix pour emprunter la D9. Et puis, dernier lieu de rendez-vous qu'on annonçait problématique, le secteur de la gare Saint-Charles. Mais là encore, les manifestants prennent visiblement leur temps, même si Frédéric Guénoux, président de l'Union des taxis indépendants de France, reste mobilisé sur place.
On attend entre 600 et 800 taxis, de quoi créer beaucoup d'embouteillages. Ce blocus est déposé pour aujourd'hui, reconductible. Alors soit on revient demain, soit on dort là ce soir. Ça dépend de la base ici présente. Profession, on a même marre. Parce que dès que le gouvernement, on pourrait dire, s'ennuie, les taxis. Comme on leur a dit, si vraiment vous en voulez plus, rachetez-nous nos licences et on n'en parle plus. Quand on n'a plus de dialogue possible, eh bien malheureusement, il n'y a plus qu'à bloquer.
Voilà, mais pour le moment, on est bien loin de la pagaille redoutée. Attention tout de même, la manifestation des taxis pourrait durer toute la journée. Avec en prime gare Saint-Charles, un trafic au ralenti, un TER sur 7 vers Aix et Nice, 1 sur 8 vers Toulon, un seul aller-retour dans la journée entre Marseille et la Côte Bleue, un TGV sur 3 et une gare Saint-Charles presque déserte ce matin.
Nathalie Chevance en direct de Marseille pour Europe 1, et c'est une journée d'action européenne pour les taxis. Le centre de Londres devrait être paralysé. Manifestation également à Berlin. À Rome, les chauffeurs font une grève à l'envers. Ils proposent des courses au prix maximum de 10 euros.
Europe 1, 7h36.
Le Brésil attend les supporters du monde entier les bras ouverts comme le Christ rédempteur qui domine la baie de Rio. Ce sont les mots de la présidente Dilma Rousseff qui a prononcé une allocution radio-télévisée pour défendre l'organisation du mondial et assurer que son pays était prêt, sûr et en dehors des terrains. Et pourtant, la FIFA ne semble pas tout à fait de cet avis. Elle pointe la mauvaise qualité de certaines pelouses qui vont accueillir les rencontres, pas dignes d'une Coupe du Monde. Simon Rubin, vous êtes à Sao Paulo pour Europe 1 et ce problème de pelouse, il concerne directement les Bleus.
Et oui, car la FIFA vise 7 stades et parmi eux, ceux de Porto Alegre et de Rio. C'est là que les Bleus joueront leur premier et troisième match. Alors ce qui est en cause ici et dans les deux cas, c'est l'état de la pelouse. Pas assez entretenu, dit la FIFA, le Brésil n'a pas investi suffisamment pour garantir un bon terrain. Et on peut craindre qu'au bout de quelques minutes de jeu, le gazon lisse et parfaitement plat se retrouve totalement labouré. Et ça, c'est mauvais bien sûr pour la qualité du jeu, mais ça peut aussi favoriser les blessures. D'ailleurs, beaucoup de joueurs s'en étaient déjà plaints de ces pelouses, c'était il y a un an pendant la Coupe des Confédérations. Enfin, le dernier détail que la FIFA soulève, les loges VIP à Sao Paulo. Au stade demain, on attend 11 chefs d'État. Chacun aura évidemment sa place, mais si des invités de dernière minute font leur apparition, comme c'est souvent le cas, eh bien il se pourrait qu'il n'y ait tout simplement pas assez de sièges. Alors c'est un détail certes, mais ô combien symbolique, et pour tout vous dire, il n'y aura même pas le moindre strapontin de libre.
Simon Rubin à Sao Paulo pour Europe 1. Hier, les Bleus se sont entraînés pour la première fois au stade de Santa Cruz, une séance ouverte au public qui a tout de même rassemblé 10 000 spectateurs.
Europe 1, 7h38.
Une thèse en 180 secondes chrono, c'était du jamais vu hier soir à Lyon, finale d'un concours vraiment pas comme les autres. De jeunes étudiants en doctorat se sont affrontés pour résumer des mois, voire des années de recherche en seulement 3 minutes face à un public de néophytes. Droit, biologie, sciences sociales, ils devaient rivaliser d'éloquence et parfois d'humour. Écoutez le reportage. Reportage Europe 1 de Rémi Pierre.
C'est dans une ambiance surchauffée et très potache que les 15 candidats viennent jouer leur thèse. Pour Thomas Layou, il est question d'acclimatation de la volaille à la chaleur.
Je vais vous parler du poulet du futur. Alors je vous vois déjà, vous vous dites, mais qu'est-ce que les chercheurs ont encore inventé ?
Marie Prévost, elle, choisit un registre poétique et s'adresse à un célèbre peintre impressionniste.
Monsieur Monet, tu ne voudrais pas essayer de peindre ces coquelicots avec de la lumière ? Tu pourrais utiliser des clusters de métaux de transition.
Pour tous, il faut simplifier au maximum les travaux. C'est ce challenge qui plaît à Benjamin Vest, venu parler de l'absorption à deux photons.
J'ai essayé de retrouver, on va dire, cette innocence un peu originale que j'ai eu au moment de choisir mon sujet thèse et me suis dit, allez, tu vas parler de ça parce que je suis sûr que ça intéresse tout le monde. Toi, ça t'a intéressé, même si tu n'avais pas fait d'études scientifiques, ça t'aurait parlé, ça t'aurait interrogé.
Et la grande gagnante de la soirée, c'est Marie-Charlotte Morin avec un sketch hilarant sur un minuscule ver dont les cellules rectales se transforment en neurones.
Le but, c'est quand même de rendre notre sujet de thèse un peu ennuyeux, accessible. Donc avec de l'humour, ça passe toujours mieux. Déjà, on perd pas les gens et on les fait rire, alors c'est sûr, ça attire la sympathie.
Alors, comédienne ou scientifique ?
Je sais pas ce que je vais faire après ma thèse, on verra. Mais pour l'instant, oui, je suis une scientifique. C'est sérieux ce que je fais quand même.
Pour les trois premiers, direction le Québec en septembre pour la finale mondiale. À Lyon, Rémi Pierre, Europe.
Pas de thèse, mais tous les grands classiques de Satisfaction à Start Me Up, en passant par Brown Sugar. Les Rolling Stones jouent vendredi au Stade de France après 7 ans d'absence. Une date unique pour laquelle les 75 000 billets sont partis en moins d'une heure. Toute votre jeunesse, hein.
Vous l'écoutez en entier ou pas? Ça ne vieillit pas, ça prend pas une ride. Merci Hélène Zélani.
Europe 1, il est 8h-20.
Il n'y a pas d'âge pour se lancer des défis, la preuve par les Rolling Stones, la preuve aussi par Nadia Robert. À 50 ans passés, elle a décidé de passer le bac. Dans une semaine, pour elle, c'est l'épreuve de français. Elle commence déjà à stresser un peu, mais ça ne l'empêche pas de venir nous voir ce matin. Elle est mon invitée tout de suite pour l'interview Vérité d'Europe 1.
Europe 1, il est 7h44. Thomas Soto.
Le rappel des titres, Europe 1 vous aide à circuler sur les trains, mais aussi à rouler. Journée de grève à la SNCF et conséquences multiples. Conséquences notamment sur les routes, Baptiste Cordier.
Oui, il y a 260 km de bouchons en région parisienne en ce moment. C'est quasiment le double par rapport à la normale. Et côté train, un TGV sur deux ou un TGV sur trois dans les régions. Seul un TER sur trois circule ce matin et il ne s'agit que d'une moyenne.
Voilà, grève reconductible a priori. On sera fixé dans la journée, savoir si ça continue demain. Toutes les infos pratiques, le trafic, c'est sur notre site europe1.fr. C'est une info Europe 1, la loi Duflot sur le logement en partie vidée de sa substance. L'encadrement des loyers sera assoupli et limité à la région parisienne. Celui des frais d'agence sera allégé, on y revient dans le journal de 8h tout à l'heure. Et puis le docteur Bonne-Maison devant les assises des Pyrénées-Atlantiques à partir de ce matin. Il est accusé d'avoir abrégé la vie de 7 patients âgés. Un procès qui relance le débat sur la fin de vie. La météo, encore beaucoup de nuages ce matin, mais du soleil sur toutes les régions qui bordent la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée dans la journée. Attention aux orages, toujours dans l'Est, en Rhône-Alpes, en Auvergne et dans la vallée du Rhône. Il fera 23 degrés à Lens, 24 à Paris, 26 à Nantes, 28 à Marseille, 29 à Nancy, 30 à Dijon, 33 à Lyon, 36 à Montpellier.
Europe 1, 7h46. Dans une semaine, elle passera son bac français. Comme tous les candidats, elle aura la boule au ventre, sauf qu'elle, elle a 53 ans. Elle s'appelle Nadia Robert. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1.
Bonjour Nadia Robert.
Bonjour.
Vous avez votre convocation avec vous?
Ah non, je l'ai pas avec moi. Elle est déjà prête avec tous les bons documents.
Alors, vous avez une situation professionnelle, Nadia Robert. Vous êtes standardiste dans une entreprise en région parisienne. Pourquoi vous mettre cette pression à votre âge, pression de passer le bac?
Alors, vous avez raison de poser la question. C'est un rêve de petite fille. J'ai toujours voulu avoir un bac pour pouvoir choisir d'aller à l'université. Pour moi, l'université représente, je sais pas, comme le château de Versailles, je dirais.
Ça veut dire que si vous le décrochez, ce bac, donc l'année prochaine, hein, vous irez à l'université, vous reprendrez un cursus universitaire?
Oui. Enfin, j'ose espérer que ça sera possible. Oui, oui, j'irai à la Sorbonne.
Ça, c'est le Graal.
Oui,
aller
c'est
à la Sorbonne.
Le Graal. Voilà, c'est le Graal. Je m'inscrirai à la Sorbonne. Évidemment, je ferai en sorte de toujours continuer à travailler, car
il faut manger.
Ça, c'est important. Mais le summum, ça serait de m'inscrire à la Sorbonne.
Alors, vous savez, Nadia, qu'avant de rêver, il faut travailler, il faut bosser. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus à une semaine de l'épreuve de français?
Ce qui m'angoisse le plus, c'est de travailler beaucoup, mais de pas travailler dans le bon sens.
Ah.
Ce qui m'angoisse le plus, c'est de me dire, bon, allez, je travaille environ 4-5 heures par jour sur mes révisions.
En plus
sur
de ces votre job. Hein.
Oui, en plus de mes... En plus de...
Et votre emploi.
De mon travail. Ce qui m'angoisse le plus, c'est de me dire, bon, j'ai fait mes fiches, je les montre à ma fille.
Oui, parce que votre fille qui a 23 ans est devenue votre coach, en fait, hein, c'est ça?
Tout à fait. On a inversé les rôles. Je suis même heureuse de ça. Elle prend sa petite vengeance parce que évidemment, hein, quand elle était elle-même.
Non, maman,
au lycée,
tu ne regarderas pas Roland Garros, tu bosses.
Voilà, c'est un peu ça. Mais faire mes fiches, que les uns et les autres les regardent. J'ai la fille de mon patron qui m'a dit, oh là là, Nadia, vous inquiétez pas, on fait des fiches et ensuite on finit par faire des fiches de mes fiches. Donc voilà.
Mais parce que toute l'entreprise est derrière vous, tout le monde vous soutient.
Oui, j'ai énormément de chance. J'ai non seulement une famille qui est derrière moi, j'ai des collègues qui sont derrière moi et qui m'aident beaucoup, qui m'encouragent beaucoup. J'ai un patron également qui me laisse libre arbitre et j'ai beaucoup de chance.
Nadia Robert, jusqu'ici vous avez donc vécu sans le bac. En quoi ça a été compliqué?
Ça a été compliqué parce que Il y a des choses. Quand on vous voit dans la rue, non, quand
c'est
vous allez.
C'est pas marqué sur le visage, hein,
non, non, c'est pas marqué sur le visage, c'est pas ce que je voulais dire. Quand vous allez chercher un emploi, la première chose qu'on vous demande, c'est quel niveau d'études? Ah, vous avez pas votre bac. Bon, ben, tant
ça
pis pour vous. Voilà. Quand vous discutez avec des gens que vous connaissez à peine, vous vous sentez tout de suite mise à l'écart parce que
c'est
vous n'avez pas votre bac.
C'est une question qui revient très vite dans la conversation,
oui,
en fait.
Oui. Oui, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, le niveau d'études dans une conversation ou le niveau d'études pour dans un milieu de travail, dans
c'est discriminant.
Est discriminant, tout à fait.
Bon, est-ce que vous pensez qu'à l'oral votre profil atypique va vous aider un peu? Est-ce que vous allez en jouer un petit peu?
Non.
Non?
Non, j'espère que non, parce que je veux vraiment le bac pour le bac, c'est-à-dire je veux le bac dans les mêmes conditions que ma fille l'a passé, c'est-à-dire au même titre que tout le monde. Et donc, non, parce que j'ai travaillé pour ça. Donc, je veux pas
donc
que ça soit...
Vous êtes noté à votre juste valeur.
Exactement.
Et votre objectif, c'est quelle note, alors, pour ce bac français?
Au début, je voulais 10 partout. Ouais. Parce que je me suis dit, déjà, là, ça sera très, très bien. Et puis, on m'a fait gentiment comprendre qu'il fallait obtenir un maximum de points d'avance. Alors, je veux un maximum d'avance.
Et vous avez une petite idée, un petit objectif secret ou pas?
Eh ben,
à l'oral, vous débrouillez plutôt bien, visiblement.
J'aimerais avoir au moins le 13 que j'ai toujours obtenu en oral blanc. Mmh. J'aimerais obtenir un 15 en sciences aussi. Et puis, à l'écrit, le sommet, ça serait 12, quoi. Mmh.
Et quel est le texte sur lequel vous aimeriez bien tomber?
À l'oral, j'aimerais bien tomber sur Barbara, le Prévert. J'aimerais bien également tomber sur Victor Hugo. J'aime beaucoup.
C'est jamais si votre examinateur vous écoute, ça peut.
Oui, ouais. Je lance des appels là.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup Nadia Robert d'avoir été en direct ce matin pour un premier grand oral. Vous verrez le bac, ça fait moins peur. Bonne journée et bah merde, hein, comme on dit. Alors c'est la première fois que je dis ça à un invité, mais je vous le dis avec grand plaisir. Merci.
Merci à vous.
Bonne journée. Vous nous tiendrez au courant de vos résultats.
Europe 1, 7h51.
Avant le sport, les matchs, la compétition comme on l'aime, place aux luttes de pouvoir. La FIFA, surpuissante organisatrice de la Coupe du Monde de foot, tient son congrès jusqu'à ce soir à Sao Paulo. Dani Cohn-Bendit est sur place et pour le coup, il n'est pas loin de trouver l'atmosphère irrespirable. L'humeur de Dani arrive sur Europe 1.
Europe 1, 8h05, Thomas Soto.
C'est l'autre match de la Coupe du Monde, plus feutré, plus sournois aussi sans doute, le 64e congrès de la FIFA qui s'est ouvert hier à Sao Paulo. Bonjour Dani Cohn-Bendit.
Bonjour Thomas.
Il sent pas bon ce congrès, hein. Il y a un fumée de corruption autour du Mondial 2022 attribué au Qatar. Le sport le plus populaire du monde serait-il dirigé, Dani, par des pourris?
Oh, des pourris. Disons qu'il y a des pourris aussi dans le foot, comme il y en a partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que, avec la corruption, c'est un peu comme avec le dopage. C'est-à-dire que personne, évidemment, n'est corrompu, aucune compétition n'a été achetée, mais bien sûr, toutes les Coupes du Monde, tout ça, c'était le plus réglo, les Jeux Olympiques les plus réglo, c'est-à-dire que vraiment, rien ne s'est passé. C'était comme pour le dopage. Personne ne se dopait jusqu'au jour où on a pris quelqu'un la main dans le sac, et là, ça roule. Et puis, ça déroule.
Dani, être président de la FIFA, ça revient à être aujourd'hui le chef d'un État très puissant. Il y a 256 millions de joueurs de foot dans le monde, 209 fédérations qui composent cette FIFA. Et en même temps, on se demande parfois si ce pays-là, la FIFA, FIFA Land, n'est pas une sorte de dictature.
Et surtout que la FIFA est une organisation à but non lucratif. Non lucratif. Donc, c'est vrai, quand on voit les sommes qui sont en jeu, on se marre un peu. Oui, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui règnent sur un monde immense, mais qui ne doivent jamais, en fait, rendre des comptes. Et c'est ça qui est très dangereux. Et donc, la FIFA, quand on le voit aussi au Brésil, c'est la haine, parce que la FIFA impose des choses insupportables pour les Brésiliens, mais qui étaient déjà, c'était déjà le cas en Allemagne et dans d'autres pays qui ont organisé la Coupe du Monde.
Dani, dernière question. Sepp Blatter, 78 ans, en poste depuis 98, veut poursuivre au-delà de 2015. Est-ce qu'une candidature, selon vous, de son ennemi juré, Michel Platini, au-delà de toute considération affective, évidemment, serait une bonne chose pour le foot mondial?
Oui, d'abord, il faut que Sepp Blatter arrête. Il y en a marre. Deuxièmement, oui, Michel Platini à la tête de la FIFA serait une bonne chose parce que Michel Platini est un homme de droite, mais quand il pense football, c'est un homme de gauche. Il veut réguler. Il ne veut plus que ce soit l'argent qui domine le football. Donc, pour moi, Michel Platini, s'il déblaye un peu les rumeurs sur sa participation à l'accès du Qatar à la Coupe du Monde, Michel Platini serait le président de la FIFA idéal. Souhaitons-lui bonne chance.
Eh bien, c'est le message est passé. L'humeur ballon de Dany qui vote Platini ce matin depuis le Brésil. C'est tous les jours à 8h05 sur Europe 1. À demain, Dany. Bonne journée.
À demain, Thomas. Ciao, ciao. Hasta luego.
Europe 1 à 7h58. Dans deux minutes, le journal de Maxime Switek.
Il est polyglotte, notre Dany. Bonjour, Jean-Pierre Elkabbach.
Ciao, ciao, Thomas Soto.
Comme est-ce bon, vous recevez François Fillon, le nouvel chef de l'UMP, avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Trois anciens premiers ministres, donc à la rescousse de l'UMP.
L'UMP, c'est une équation valable 5 mois. 3 plus 1 égale 4. 4 contre 1, on sait qui. Ou 1 contre 1, chacun pour soi. Aujourd'hui, l'UMP, sous l'œil des militants inquiets, c'est le parti où les morts sont encore vivants, où les caisses sont vides et les dettes pleines, où les fantômes rôdent, où les Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, François Baroin préparent les scalps. Bien du plaisir, Monsieur Fillon.
Monsieur Fillon qui sera face à Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Tout à l'heure, Jean-Pierre.
Laurent Cabrol.
Je vais mettre un petit bémol à ce que je disais tout à l'heure. Je parlais du soleil sur la Bretagne, la Normandie.
Donc là, on imagine les auditeurs qui rentrent chez eux. Ah, il faut reprendre un manteau, il faut reprendre.
Non. Bretagne, Normandie, Nord-Picardie, c'est vrai, il fera beau. Mais Champagne-Ardenne, région parisienne, Val-de-Loire, c'est vrai, il sera pas mauvais. Hein. Mais ce matin, nous aurons quand même pas mal de nuages, notamment sur la capitale. Et ensuite, les éclaircies vont s'imposer. Donc pas d'inquiétude non plus. Mais enfin, c'est un peu moins beau que je ne le pensais. Sur le Poitou-Charentes, sur le littoral aquitain, le littoral du Pays Basque et celui de la Méditerranée, là aussi, on peut parler de beau temps avec sur une frange littorale de 20 km, beaucoup de soleil. Les températures, non, j'oublie les orages, c'est très important. Ils vont se manifester en deuxième partie de journée sur l'Alsace, les Vosges, le Mâconnais, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, l'Auvergne, la vallée du Rhône et les Pyrénées. Un petit bémol là aussi, Lyon semble épargné par le mauvais temps et donc nous aurons un peu plus de soleil qu'ailleurs à Lyon. Des ondées sur la Lorraine et le Limousin, voilà pour les couleurs du ciel avec toutes les nuances qui s'imposent. Les températures maximales entre 21 et 36 degrés, il en fera 24 à Paris, 25 à Pontivy, 29 à Nancy, 30 à Dijon, 32 à Colmar, 33 à Lyon, dit 33 docteur, 33. Et 35, 36 à Montpellier.
Merci 36. Laurent, à tout à l'heure.
Europe 1, 8h.
Bienvenue et bonne journée à tous.
6h-9h, Thomas Soto sur Europe 1.
L'actualité en trois titres, à peine votée, déjà enterrée. Le gouvernement s'apprête à vider de son sens la loi Duflot sur l'encadrement des loyers. C'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin. SNCF, taxi, double journée de grève aujourd'hui. Nous serons en direct de Lille où le trafic des trains régionaux et des TER est très perturbé ce matin, comme partout en France d'ailleurs. Et puis le procès du docteur Bonne-Maison s'ouvre tout à l'heure. L'urgentiste est accusé d'avoir tué 7 patients, mais lui considère qu'il a simplement abréger les souffrances de malades en fin de vie. À 8h10, l'édito écho de Nicolas Barré, la Commission européenne se cherche toujours un président et tout ça se passe sur fond de guerre larvée entre l'Allemande Merkel et l'Anglais Cameron. Le journal de 8h, Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. C'était la loi qui allait tout changer. Freiner la hausse des loyers, limiter les frais d'agence, rassurer les propriétaires face au risque d'impayés. La loi Allure, aussi baptisée loi Duflot, du nom de l'ex-ministre du Logement. Cette loi a été votée il y a à peine 2 mois, mais le gouvernement est déjà en train de l'enterrer. C'est une information que vous nous révélez, Carole Ferry, ce matin sur Europe 1. On est tout simplement en train de détricoter le texte.
Oui, car la loi Allure a bien été votée, mais il manque toujours les décrets d'application. Ça peut paraître un détail, mais en réalité, c'est toute la loi qui va être vidée de son sens. Sur l'encadrement des loyers, tout d'abord. La loi devait enrayer la flambée des prix dans toutes les grandes villes. Finalement, elle sera appliquée uniquement en région parisienne. Pour Marseille, Lyon ou Bordeaux, c'est renvoyé au calende grec. Et même à Paris, la loi pourrait être assez facilement contournée, car si vous estimez avoir un bien exceptionnel, vous pourrez fixer le loyer que vous voulez. Sur les frais d'agence ensuite, ils devaient être limités à 12 euros le mètre carré à Paris. Selon les professionnels, ce sera plutôt 16 euros et la différence n'est pas négligeable. Prenons l'exemple d'un 70 mètres carrés, on aurait dû payer 840 euros de frais d'agence, on payera 1120 euros. Enfin, dernière mesure phare de cette loi Duflot, la garantie universelle des loyers. L'idée, c'était de créer un fonds pour rembourser les propriétaires quand le locataire ne paye pas. Certains craignaient que ça encourage les mauvais payeurs.
Cette mesure, qui avait déjà du plomb dans l'aile, devrait être définitivement enterrée.
La loi Duflot aux oubliettes. Merci Carole Ferry.
Et Cécile Duflot, précisément, vient de réagir sur Twitter. La nouvelle offensive contre l'encadrement des loyers a une légèreté de patapouf, dit-elle. Qui paye les boîtes d'influence média cette fois? Questionne l'ancienne ministre du Logement qui vise sans doute les professionnels de l'immobilier.
Deuxième grand titre à la une ce matin sur Europe 1. Une grève plus une grève égale une grosse journée de galère. On parlera dans un instant du mouvement de protestation chez les taxis avec un échange musclé saisi par l'un de nos reporters, vous entendrez ça. Mais d'abord, les cheminots, une bonne partie d'entre eux fait grève contre la prochaine réforme ferroviaire. Comme prévu, le trafic est très perturbé ce matin. Un TGV sur deux dans le meilleur des cas, un train régional sur trois comme à Lille où l'on vous retrouve en direct, Lionel Gougelot. Lionel, premier train du matin et première galère.
Oui, effectivement, parce que vous l'avez dit, avec un TER sur trois seulement en circulation ce matin sur le réseau régional, eh bien, ce sont des dizaines de milliers de voyageurs qui sont touchés directement par ce mouvement. Beaucoup d'usagers que j'ai rencontrés ce matin et qui sont en colère, perturbés dans leur journée de travail.
C'est le bordel, quoi, c'est tout. Moi, je viens d'Armentières, j'ai pas eu de train, j'ai eu un bus, puis j'attends. Puis là, la correspondance pour Valenciennes, bah, c'est 7h35. Je vais arriver en retard au boulot. Mon patron, à chaque fois, il dit « Ouais, bah SNCF, ils font chier, quoi. »
Je pète un câble, je dois aller bosser et je n'ai pas de train pour aller bosser.
C'est casse-pied, c'est toujours, toujours la même chose. J'ai l'impression que les choses se répètent et c'est usant.
Alors vous l'entendez, hein, beaucoup de lassitude pour ces usagers qui, pour la plupart d'ailleurs, n'ont pas bien compris hein, les motifs de cette grève. Et pour vous dire l'ambiance également ce matin en gare de Lille, il y a bien des annonces de départ ou d'arrivée. Mais ce sont des annonces pour des autobus, Maxime, des autobus de remplacement qui ont été mis en place pour assurer les liaisons sur les principales grandes villes de la région. Et ça sera le cas d'ailleurs toute la journée, avec des temps de trajet forcément beaucoup plus longs pour tous ces usagers. Et pour ce qui concerne les TGV, eh bien, il faut compter seulement un TGV sur deux en moyenne. Il y en a eu deux au départ à 6h41 et 7h41 ce matin en direction de Paris Nord. Deux TGV qui, inutile de vous le dire, ont été littéralement pris d'assaut par les voyageurs.
Lionel Gougelot en direct de la gare Lille-Flandre pour Europe 1. Notez que cette grève touche également le RER, un train sur trois prévu sur les lignes C, D et E qui sont les plus touchés. Et j'en viens donc à cette journée de mobilisation chez les taxis. Eux protestent toujours contre la concurrence des véhicules avec chauffeur, les VTC. Plusieurs centaines d'entre eux se sont notamment regroupés à l'aéroport d'Orly ce matin. Écoutez cette altercation entre un taxi et un VTC.
Vous n'êtes pas au courant aujourd'hui qu'il y a une grève ?
Si, mais j'ai des clients, ils...
Mais c'est pas notre problème, ça, monsieur. Moi, j'ai travaillé toute l'année, je me suis arrêté à 4h du matin pour venir ici, pour défendre ma profession. Vos clients, je m'en fous complètement. Moi, c'est ma profession que je défends, vous avez compris ?
Ouais, bah, on est tous pareils. Hein.
Non, vous êtes pas pareil, vous travaillez, là, c'est pas pareil. Vous voulez qu'on casse votre voiture maintenant, c'est ça que vous voulez ? Hein ? Parce qu'on s'énerve, on est nerveux, là, aujourd'hui, on est nerveux.
On crève la dalle.
Mais je m'en fous à tout France. Tes taxis, t'as un tout sur ton toit ? Bon, alors, tu dégages maintenant, c'est bon, tu t'en vas d'ici.
Voilà, grosse tension à Orly à l'instant, micro Europe 1 de Walid Berissoul. Attention, cette grève des taxis et celle à la SNCF risque de fortement perturber la circulation dans et autour de Paris. On compte actuellement 300 km de bouchons en région parisienne, le double comparé à une journée normale. Il faut aussi s'attendre à des perturbations du côté de Marseille et d'Aix-en-Provence.
Europe 1, il est 8h05.
A-t-il tué en toute conscience 7 de ses patients ou a-t-il abrégé les souffrances de 7 malades en fin de vie? C'est la question centrale du procès qui s'ouvre aujourd'hui aux assises des Pyrénées-Atlantiques, le procès du docteur Bonne-Maison qui était urgentiste à Bayonne. Stéphane Place, vous êtes en ligne de Pau pour Europe 1. C'est vous qui allez suivre ces audiences. Les jurés vont évidemment chercher à cerner la personnalité du docteur Bonne-Maison.
Oui, effectivement, Maxime, c'est bien la personnalité de ce médecin de 53 ans, décrit par son entourage comme un homme passionné par son travail, qui va être au cœur de ces débats. Alors que ses soutiens louent ses compétences, son humanité, l'enquête judiciaire montre aussi un praticien ayant traversé une sévère dépression, confronté à des patients en fin de vie dont il décide seul d'abréger les souffrances au point d'aller se servir dans la pharmacie et d'annoncer à ses collègues « l'histoire n'a que trop duré, je m'en occupe personnellement ». Et ce père de famille que l'on trouve volontiers sympathique à l'hôpital finit durant cet été 2011 par choquer les autres membres de ce service dont les soupçons se renforcent. Cynisme ou simple besoin d'évacuer la pression face à une tâche trop lourde, il y a ce cas rapporté par les enquêteurs. Un aide-soignant précise qu'il verra une octogénaire hospitalisée le lendemain. Le docteur Bonne-Maison lui rétorque qu'elle ne sera plus là et va jusqu'à parier un gâteau avec lui. Cette femme décédera effectivement dans les heures suivantes. Se défendant d'être un militant de l'euthanasie, Nicolas Bonne-Maison est attendu ici par ses juges et par son comité de soutien. qui a affrété plusieurs bus ce matin venus du Pays Basque.
Stéphane Place en ligne de Pau pour Europe 1. Dans l'actualité également ce matin, Bouygues Télécom est sur le point de tailler dans ses effectifs. La direction doit présenter tout à l'heure aux salariés sa nouvelle stratégie pour tenter de relancer l'entreprise qui a perdu 200 000 abonnés en 2 ans. Martial Liu, cette nouvelle stratégie, elle pourrait se traduire parmi la 2000 suppressions de postes. On se souvient que Bouygues a raté le rachat de SFR il y a quelques semaines. C'est la conséquence directe ?
Oui, clairement. Parce qu'aujourd'hui, Bouygues Télécom, c'est le plus petit des opérateurs français, parce que si on accumule les abonnés du fixe avec les box internet et ceux du mobile, et bien Bouygues a moins d'abonnés que tout le monde. C'est aussi le groupe qui a le plus de mal à être rentable, tout simplement parce qu'il a un réseau équivalent à celui de France Télécom Orange, mais avec 3 fois moins de clients, donc c'est plus cher. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est le coup d'envoi d'une concentration des télécoms. On va revenir à 3 opérateurs, parce que les suppressions de postes auront lieu chez Bouygues dans les fonctions qu'on ne voit pas. Ce sera le marketing, l'informatique. Et puis ensuite, Bouygues va lancer une guerre éclair contre les forfaits à 30 € sur les box, la vache à lait de Free. Donc, quitte à vendre des abonnements d'ailleurs à perte. Et tout ça pour faire quoi ? Eh bien pour mieux se vendre. Et dans quelques mois, Bouygues sera mangé par Orange ou par Free.
Martial Liu, chef du service économie d'Europe 1.
Europe 1, il est 8h08.
Ça n'a pas traîné. Première journée au Brésil et premier entraînement pour les Bleus. Bah, c'était hier soir.
Vacances non plus. Hein.
C'est vrai. Mais quand même, le décalage horaire tout de même. Ouais. C'était hier soir donc à Ribeirão Preto, sous vos yeux, Cyril de la Morinerie. Et alors, il y a une chose qui vous a beaucoup surpris, Cyril. C'est le monde dans les tribunes.
Écoutez, près de 10 000 personnes pour un entraînement de l'équipe de France. 10 000, c'est inédit. Ils étaient à peine plus d'une centaine la semaine dernière à Clairefontaine. Alors au début, c'est vrai, je me suis dit, c'est incroyable le nombre de Français qui ont fait le déplacement. J'ai croisé beaucoup de supporters avec des maillots de l'équipe de France. Certains, c'était celui de Ribéry, d'autres, c'était Barthès. J'ai même vu des maillots du PSG et de Lille. Mais quand je les ai abordés, tous ces supporters, ils m'ont tous répondu en portugais. Car les 10 000 personnes dont on parle, ce sont des Brésiliens. Il n'y avait aucun Français. Dans les tribunes, ils ont même accroché des drapeaux tricolores, mais je n'ai pas vu un seul drapeau brésilien. Et je peux vous dire qu'à chaque frappe de Pogba, Giroud, Valbuena, c'était une clameur qui montait dans tout ce stade. Sur le terrain, eh bien, les Bleus sont restés très concentrés, échauffement intensif, exercice avec ballon, match sur une moitié de terrain. Deschamps, eh bien, il observe, il recadre ses joueurs, il les réunit en cercle au milieu du terrain pour de nouvelles consignes. Une fois l'entraînement terminé, eh bien, les Français s'engouffrent dans les vestiaires, sauf Benzema, le joueur du Real Madrid, a fait un détour pour offrir son maillot aux supporters. L'équipe de France réalise donc pour l'instant un sans faute au Brésil.
Le sans faute, Cyril de la Morinerie en ligne.
Sans faute avant le premier match, c'est quand même important.
Pourvu que ça dure comme dirait l'autre. Cyril en ligne de Ribeirão Preto pour Europe 1. Est-ce bien utile ? Un rappel tout de même, la Coupe du Monde démarre demain. Ben oui, match d'ouverture demain soir entre le Brésil et la Croatie. Coup d'envoi à 22h à suivre sur Europe 1.
Merci Maxime Switek.
Europe 1, 8h10.
Page jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises, vous présente l'édito Éco.
Thomas Soto.
Qui va diriger l'Europe, autrement dit prendre la tête de la Commission ? Voilà une question qui, plus de 3 semaines après les européennes, n'est toujours pas réglée. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Thomas.
La bataille fait rage et elle pourrait bien s'achever par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, carrément.
Oui, rien que ça. C'est une bataille extrêmement féroce entre Merkel et Cameron. Je vous explique. Les élections européennes ont vu la victoire du PPE, le parti de centre-droit de Jean-Claude Juncker. En toute logique, c'est donc lui qui devrait prendre la présidence de la Commission. Ce serait conforme au vote des électeurs. C'est ce que veut Berlin, beaucoup d'autres capitales, y compris la France, où pourtant la gauche est au pouvoir.
Mais attendez Nicolas, pourquoi Cameron bloque ? Pourquoi ne voudrait-il pas de Juncker alors qu'il est de droite comme lui ?
Il est de droite certes, mais il est surtout européen, il est pour plus d'intégration. Bref, c'est l'horreur absolue pour les conservateurs britanniques. Alors depuis quelques jours, Cameron fait du chantage. Il dit que si Juncker devient président de la Commission, ça pousserait le Royaume-Uni à sortir de l'Union. Mmh. L'ancien Premier ministre Michel Rocard lui a répondu dans une tribune qui a eu un impact retentissant dans la presse britannique. Chiche, partez avant d'avoir tout cassé, leur a-t-il dit. Ayez l'élégance de sortir et nous retrouverons votre estime. Vous voyez, il y a de l'ambiance en ce moment en Europe.
Bon, d'accord, ça c'est des petites phrases, mais sérieusement Nicolas, est-ce que les Anglais pourraient vraiment sortir de l'Union Européenne ?
Oui, Cameron joue avec le feu. Pourquoi ? Parce que s'il est réélu, il s'est engagé à faire un référendum en 2017 sur le maintien ou non dans l'Union Européenne. Or, les anti-européens viennent de gagner les élections au Royaume-Uni, donc Cameron sans que la situation lui échappe et que les partisans de la sortie risquent de gagner ce référendum. Lui-même n'est pas vraiment pour la sortie. Il sait que ce serait mauvais pour l'économie britannique et catastrophique pour la City. Mais il est ambigu. Il veut bien rester dans l'Europe à condition qu'elle change complètement. En fait, il s'est mis dans une situation inextricable et il est maintenant en train de se marginaliser. Alors attention, Michel Rocard a peut-être raison quand il dit que le Royaume-Uni ferait mieux de sortir avant de tout casser. Reste que l'Europe sans le Royaume-Uni, quand même, c'est forcément un échec et j'ajoute une négation de notre histoire.
C'est un peu le drame de cette Europe, Nicolas, où les membres continuent bien souvent à jouer leur intérêt particulier, à faire de la politique intérieure au lieu de jouer collectif. Exactement. L'édito écho de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas.
À demain.
C'était l'édito écho avec Page Jaune, numéro 1 en France de la création de sites internet pour les entreprises. Professionnels, retrouvez nos solutions digitales sur www.site.pagejaune.fr.
Europe 1, 8h12.
Juste avant 9h moins le quart, nous retrouverons en direct Nicolas Canteloup. Nicolas, accompagné ce matin de Guillaume Durand. Bonjour Guillaume.
Bonjour mon cher Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans un instant, vous le savez, Jean-Pierre Elkabbach reçoit François Fillon, qui va certainement nous parler de leur fameux triumvirat. Donc merci à l'UMP de nous apprendre un nouveau mot, triumvirat, donc trois hommes appelés à diriger, triumvirat composé de François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, Luc Châtel. Voilà donc un triumvirat à quatre, trio à quatre. Ils ont toujours cet éternel problème à l'UMP pour arriver à bien compter. Voilà Jean-Pierre, à vous pour une interview de 10 minutes qui en fera certainement 15 ou 20. Oui, Jean-Pierre aussi a un éternel problème pour compter. Il surfacture toujours en durée ses interviews, Jean-Pierre.
Jamais aucune
fausse facture. Ça ne vous coûte rien, vous. Hein,
c'est pas faux.
François Fillon qui est entré dans ce studio. Bonjour Monsieur Fillon.
Bonjour.
C'est donc l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout de suite. C'est l'interview politique d'Europe 1. Nicolas Canteloup, on vous retrouve juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.
Thomas Soto, 6h-9h.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h17.
L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez François Fillon, ancien Premier ministre et co-président par intérim de l'UMP. Messieurs, c'est à vous.
C'est vous qui élaborez toutes les initiatives. Bienvenue François Fillon, bonjour.
Bonjour.
Avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, vous n'êtes donc plus trois putschistes qui ont abattu Jean-François Copé. Le bureau politique vous a donc conféré votre légitimité. C'est une victoire des trois, peut-être une victoire personnelle, peut-être même une revanche.
Non, Jean-Pierre Elkabbach, le pays est dans une situation dramatique. On a un président de la République à 18% dans les sondages. On est un des seuls grands pays occidentaux dont l'économie est totalement en panne. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, l'extrême droite est arrivée en tête à une élection. Dans ce contexte-là, la question de la bonne santé de l'opposition, de la capacité de l'opposition à incarner une alternance est absolument fondamentale.
Oui, mais elle n'a pas donné jusqu'à présent des preuves de sa bon état de santé. Elle était plutôt malade.
Ce que je veux dire, Jean-Pierre Elkabbach, c'est que ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une question d'ambition. On a besoin d'une droite et d'un centre qui se refondent pour préparer l'alternance. On vient de connaître une crise interne à l'UMP en raison d'un scandale financier. Il y a des dizaines de millions d'euros qui ont été détournés. Bon, c'est une situation qui ne pouvait pas ne pas conduire à la démission de l'équipe de direction. Et il fallait qu'une équipe transitoire se mette en place pour organiser un congrès qui va permettre de refonder l'UMP, c'est-à-dire de choisir un nouveau président, une nouvelle équipe de direction, mais surtout de choisir une ligne politique,
stratégie. Par exemple, qui va prendre les grandes
décisions? Les militants.
Non, mais au moment du congrès, le nouveau président, ou vous, les trois,
non,
plus un?
Non, ce sera la campagne pour l'élection à la présidence qui déterminera la ligne politique de l'UMP. Nous, notre travail avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, c'est pendant les 4 ou 5 mois qui viennent, un, d'incarner l'opposition, c'est l'essentiel, deux, de faire toute la lumière sur les scandales financiers qui touchent l'UMP, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé.
C'est à vous de le faire ou c'est à la justice?
Bon, on va quand même essayer de savoir nous-mêmes ce qui s'est passé.
Il faut
d'ailleurs au moins savoir dans quelle situation financière réelle est l'UMP. Pour prendre des
décisions.
Quel
est le montant des dettes aujourd'hui?
Quel est le montant des dettes? Je n'en sais rien.
Vous n'avez
jamais pu le savoir. Ouais. Les chiffres qui circulent sont des chiffres différents. Certains parlent de 100 millions, d'autres de 70 millions.
Mais par exemple, au secrétaire général que vous avez nommé tous les trois maintenant, avec votre légitimité, Luc Châtel, de gérer la dette et de déposer les comptes avant le 30 juin?
C'est notre responsabilité. Nous avons, avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, accepté de prendre la totalité des responsabilités de la gestion de l'UMP sous le contrôle du bureau politique et donc nous allons assumer ses responsabilités dans les prochains jours.
C'est-à-dire vous arrivez tous avec les mains blanches, propres.
Bah oui, on n'a jamais été mêlé à la gestion de ce parti. Et
mais Alain Juppé dit qu'il ne veut pas investiguer sur le passé, c'est son mot hier. Vous réclamez la vérité sur les malversations d'une sorte de mafia. Vous demandez donc un audit interne.
Mais bien sûr, un audit interne qui sera réalisé dans les tout prochains jours. C'est la première décision que nous prendrons. Cette décision, elle est nécessaire pour savoir où on met les pieds, où on va. Comment est-ce que le parti peut être redressé? Est-ce que financièrement, il est dans une situation redressable? Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Et ensuite, la troisième mission qui est la nôtre, c'est d'organiser un congrès dans des conditions qui soient exemplaires en termes d'éthique, en termes de climat politique. Mais il faut apaiser le climat politique. À l'UMP qui, depuis des mois et des mois, est tendu par un esprit clanique qui a abouti à l'explosion de ces dernières semaines.
Et vous dites apaiser, mais l'apaisement, c'est pas la paix. Apaiser, c'est la trêve dans la guerre.
Non, apaiser, ça veut dire démontrer qu'on peut avoir une compétition interne sur des lignes politiques et sur des questions de caractère sans que ce soit la guerre civile.
Oui,
On l'a déjà démontré les uns et les autres dans des responsabilités précédentes. On peut gérer une majorité, on peut gérer un grand conseil municipal, on peut gérer un grand parti, en permettant à chacun de s'exprimer sans que ce soit un climat que j'ai qualifié de mafieux, mais qui y ressemblait étrangement.
Mais comment vous faites pour soigner les convoitises, les haines, les rivalités?
Parce que vous donnez la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Vous mettez tout le monde sur la même ligne de départ, et c'est normal. La politique, c'est la compétition. Qui est des hommes et des femmes à l'UMP qui souhaitent figurer dans cette compétition, participer à cette compétition, défendre leurs idées, exercer des responsabilités. C'est la base même du fonctionnement démocratique. Mais faut que les règles du jeu soient claires, que les gens soient heureux de vivre
heureux.
Ensemble.
Oh là là,
oui,
il y a du chemin.
Il y a énormément de chemin, mais c'est un point très important.
Comment vous pouvez faire avec trois entraîneurs? Vous n'êtes pas encore les Bleus. Qui est le Didier Deschamps? Parce qu'il faudrait un entraîneur.
Il y aura un entraîneur à partir de l'élection à la présidence de l'UMP au mois de novembre.
Vous serez candidat, vous?
Ça, c'est pas une question qui est encore d'actualité. On verra.
C'est-à-dire que vous pourriez vous présenter?
On verra ça. C'est pas le sujet pour l'instant. Mais chaque chose en son temps. Mon objectif jusqu'à hier, c'était de réussir le bureau politique d'hier, c'est-à-dire de faire en sorte que les trois premiers ministres qui avaient proposé de gérer le parti dans la période d'intérim soit désigné à l'unanimité par le bureau politique. C'était contesté, vous vous en souvenez.
Hier, la
moitié de la presse expliquait que ça allait pas se passer.
Vous êtes un stratège.
Maintenant,
mon deuxième objectif
maintenant, c'est de faire la lumière sur les questions financières et d'organiser la compétition interne à l'UMP dans des conditions qui fassent que tout le monde se sente respecté. Après, je prendrai ma décision s'agissant de cette candidature ou pas.
Si en novembre l'ex-président Sarkozy est candidat à la tête de l'UMP avec le soutien des militants, qu'est-ce que vous faites?
Mais ça ne change rien au sujet. Si Nicolas Sarkozy veut être candidat, moi, il ne m'a pas fait de confidence. Tout militant à jour de cotisation peut être candidat à la présidence de l'UMP.
Le vrai rendez-vous.
Ce sera une compétition.
Vous pourriez y participer ou s'il y arrive, vous attendez la primaire.
Je n'exclus rien, mais je ne prendrai pas de décision aujourd'hui.
Même sous la pression
de Jean-Pierre Cabache.
Vous ressemblez à un quatuor anti-Sarkozy.
Non, d'abord, il n'y a pas de quatuor. Il y a un trio qui dirige l'UMP et il y a un secrétaire général qui a reçu pour mission de gérer la maison de façon quotidienne. D'ailleurs, on a décidé avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin de bannir le mot de trio ou de triumvirat qu'utilisait tout à l'heure M. Cantelou. C'est un collège. Voilà, c'est un collège.
C'est un collège. Et on peut gouverner avec un collège.
On peut gouverner de manière transitoire avec un collège. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'avait pas réussi hier à obtenir une majorité autour et même l'unanimité autour de cette proposition, c'est l'UMP qui volait en éclats.
Le secrétaire général Luc Chatel aura bientôt deux adjoints ou trois adjoints. Vous savez qui c'est déjà?
On est en train d'y réfléchir, Jean-Pierre Elkabbach, ça sera proposé au bureau politique la semaine prochaine.
D'accord, donc il faut être un peu patient. Et par exemple, les têtes qui ont été mêlées de près ou de loin, même peut-être de loin, à Big Malion. Je pense par exemple à quelqu'un dont le nom revient souvent, le directeur général de l'UMP, cité dans Big Malion, Eric Césari. Est-ce qu'il peut rester?
Il est incontestable que nous allons avoir besoin d'une direction générale qui soit totalement, qui n'ait eu aucune responsabilité dans le passé. Donc on discutera de cette question dans les prochains jours, mais c'est pour nous, pour Alain Juppé, pour Jean-Pierre Raffarin et pour moi, une question absolument incontournable. Nous avons besoin que les gens qui sont dans la tourmente judiciaire soient, comment dirais-je, en réserve, de côté, ne soient pas en charge de la gestion quotidienne du parti.
Je reviens, vous avez montré que François Fillon peut tuer. Après Jean-François Copé, qui ?
Non, mais c'est pas comme ça que ça
mais
fonctionne.
Mais ça ressemble à un western.
C'est pas, non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Faites attention parce que l'autre héros en face tire aussi
Jean-Pierre
très vite.
Jean-Pierre Cabas, c'est pas moi qui
Nicolas Sarkozy a de bons flingues.
C'est pas moi qui ai inventé le scandale financier qui a conduit à la démission de Jean-François Copé. Ce n'est pas moi qui aujourd'hui ai inventé les suspicions qui pèsent sur le financement, sur les financements de la campagne de 2012. Ce sont des événements et face à ces événements, moi je propose une conduite qui doit être une conduite exemplaire. Mais qui doit être une conduite exemplaire sur le plan moral. Quand un pays est dans une crise aussi grave que celui que celle que nous connaissons, la première des choses qu'on doit faire, c'est proposer aux Français des dirigeants qui ne sont mêlés de près ou de loin à aucun scandale.
Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy pouvait ne pas savoir ce qui se passait ?
Je sais pas. C'est à lui qu'il faut poser la question.
Et vous ? Mais par exemple, vous avez été Premier ministre, vous avez participé à des meetings pharaonesques du candidat Sarkozy. Vous savez rien ? Vous ne disiez pas où va tout ce fric ?
Je me suis jamais posé de question sur le financement de la campagne de 2012. J'ai toujours pensé qu'il était, correspondant aux règles. Et j'espère qu'il l'était d'ailleurs. Tant que le contraire n'est pas démontré, je n'ai aucune raison de penser le contraire. Pour le reste, je n'ai absolument pas été associé à l'organisation de la campagne de 2012. Absolument pas.
Quel que soit le prochain président de l'UMP, il y aura des primaires, sauf si c'est Nicolas Sarkozy qui prend la tête de l'UMP.
Non, il y aura des primaires dans tous les cas de figure. Et s'il n'y a pas de primaire, je l'ai déjà dit, le risque qui pèse sur la droite et le centre, c'est une multitude de candidatures au premier tour de l'élection présidentielle. Donc si on veut pas, compte tenu du danger que représente le Front National et l'extrême droite, aucun candidat de la droite au deuxième tour, il faut des primaires. Donc ces primaires ont été décidées par les militants, elles seront mises en œuvre.
Merci. Hier, c'était une étape, il y en aura d'autres.
Absolument, monsieur le Cabache.
Merci François Fillon. Il y aura donc des primaires, quoi qu'il arrive, selon l'ancien Premier ministre et co-président par intérim donc de l'UMP. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes et président du Haut Conseil des Finances publiques, qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach. Merci et bonne journée.
Europe 1, 8h27.
Selon Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État au transport, le prix du billet de train est largement subventionné par de l'argent public. Vrai ou faux ? La réponse d'Anne Le Gall, le vrai faux de l'info de la matinale sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h31, Thomas Soto.
Le rappel des titres, on s'attendait à une journée compliquée à la SNCF. C'est le cas, Baptiste Cordier, et notamment à l'heure où l'on se parle, du côté de la gare de Lille.
Oui, le trafic est même interrompu sur la gare de Lille-Flan parce que les cheminots sont actuellement sur les voies. C'est une information de notre correspondant, Lionel Gougelot. Et puis, le trafic plus globalement, seulement un tiers des TER circulent aujourd'hui. Côté grande ligne, il y a seulement un TGV sur deux dans le nord et dans l'est, un sur trois partout ailleurs. En région parisienne, on compte plus de 300 km de bouchons à l'heure actuelle. C'est le double par rapport à la normale.
Les infos pratiques toute la journée, vous les retrouvez sur Europe 1 et sur notre site europe1.fr. Les taxis se mobilisent également. Mouvement de protestation européen contre la concurrence qu'ils jugent déloyale des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. Et puis, le mondial commence demain. Le Brésil est prêt, sûr et en dehors du terrain, assure et rassure Dilma Rousseff. Nous attendons les supporters du monde entier, les bras ouverts, a ajouté la présidente brésilienne.
Laurent
la
Cabrol.
Météo, Laurent Cabrol.
Bien fort heureusement, cette journée de galère, le ciel est un peu avec nous. Puisque tous ceux qui doivent marcher, tous ceux qui doivent prendre des transports de substitution et qui en ont marre, eh bien tous ceux-là auront au moins le ciel pour eux. Puisque le temps est clément ce matin, et certes il y a pas mal de nuages, les pluies s'échappent par les régions du nord-est, mais nous aurons au fil des heures sur une bonne partie du pays un temps ensoleillé et presque chaud, notamment sur les régions qui bordent la Manche et la mer du Nord et sur les côtes atlantiques. Nous aurons aussi sur les côtes du Pays Basque comme sur les côtes méditerranéennes un temps clément. Maintenant, nous avons quand même une poche orageuse orageuse qui va se manifester en deuxième partie de journée sur les Vosges, la Lorraine, l'Est de la Bourgogne, c'est-à-dire le Mâconnais, le Dijonais, mais aussi la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes sans Lyon où il fera relativement beau, la basse vallée du Rhône, même la vallée du Rhône dans son ensemble, et l'Auvergne. Dans toutes ces régions, prévoyez des orages locaux qui seront un peu moins violents que ces jours derniers. Un petit peu de pluie peut-être sur les Midi-Pyrénées, mais rien n'est moins sûr. Et sur la Champagne-Ardenne, ce sera pas trop mal.
Merci Laurent Cabrol.
Europe 1, 8h33.
Elle colle à l'actu, elle colle à l'info, le vrai faux de l'info d'Anne Le Gall. Bonjour Anne.
Bonjour Thomas, bonjour
à tous. On parle donc ce matin du prix du billet de train, il y a des choses à dire.
Voilà, on l'a dit, hein, certains syndicats protestent contre le projet de réforme ferroviaire. Le secrétaire d'État au transport l'a rappelé, les comptes de la SNCF sont dans le rouge, faire rouler des trains ça coûte cher et le prix du billet payé par le passager ne reflète pas la valeur réelle. C'est ce qu'a affirmé Frédéric Cuvillier hier sur Europe 1 face à Wendy Bouchard.
Pour ce qui est du prix du billet, malheureusement, ce que acquitte chaque usager, c'est de l'ordre de 30% du billet, du coût réel.
Alors Anne, quand Frédéric Cuvillier affirme que ce que paye le passager, c'est seulement 30% du coût réel, à peine un tiers, c'est vrai ou c'est faux ?
On va mettre un vrai, car il se trouve que Frédéric Cuvillier répondait à une question d'auditrice sur le prix du billet des trains régionaux, les TER. Mmh. Alors effectivement, quand vous faites un Toulouse-Mazamet ou un Guingamp-Carhaix, voilà, vous ne payez que 30% de ce que coûte réellement le trajet, car ce sont les régions qui financent les 70% restants. Les régions versent ainsi chaque année 4 milliards d'euros à la SNCF et les 800 000 voyageurs quotidiens des TER profitent donc effectivement d'un billet largement subventionné.
Subventionné par les régions et donc payé par les impôts, c'est un peu hein, voilà. Mort la queue là. Mais pour les autres trains, on paye plus que 30% du coût réel ou pas alors ?
Eh ben oui, on paye plus. Hein. C'est ce qui ressort du rapport Bianco remis l'année dernière à Matignon pour préparer la réforme ferroviaire. Les chiffres sont très clairs. Hein. Si vous prenez un train Corail, un Intercité, un Paris-Clermont par exemple, alors là vous payez bien plus que le tiers du coût réel puisque 75% du trajet est à votre charge, le reste étant subventionné par l'État. Pour les TGV, alors c'est encore plus net. Le voyageur paye 100% du coût réel du trajet. Il n'y a aucune aide publique. Si vous payez un billet moins cher que votre voisin, c'est juste que vous l'avez acheté plus tôt ou que c'est une promotion. Mais c'est de la pure logique commerciale.
Bon, ça veut donc dire, Anne, très clairement que le billet subventionné aux deux tiers dont parle Frédéric Cuvillier, c'est loin, très loin d'être une règle. Hein.
Oui, on peut même dire que c'est une exception puisque ça ne concerne finalement que les 15% de voyageurs qui empruntent les TER. C'est donc une minorité de clients sur l'ensemble du réseau SNCF.
Il a répondu à une question précise, on lui met un vrai quand même. Hein.
On lui met quand même un vrai.
Mais un peu un vrai filou on met ce matin. Voilà, merci Anne Le Gall. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain Anne.
À demain. Europe 1, 8h35.
Tout de suite, c'est Natacha Polony qui arrive, la revue de presse.
Europe 1, 8h36, l'heure de la revue de presse.
Et de Natacha Polony. Bonjour Natacha.
Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, au une de vos journaux, la météo s'est calmée, mais le ciel est lourd de menaces. Pour les tricheurs, et ça ne fâchera personne, hein, Le Monde, affaire HSBC, les dessous d'une gigantesque fraude fiscale. Pour le gouvernement ensuite, Le Figaro, budget, la majorité met valse sous pression. L'Opinion, régime spéciaux, le retour. Pour les Français surtout, Le Parisien et cette photo d'une gare engorgée par la grève. Quelle galère! Et puis l'atmosphère sera lourde aussi à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Libération, affaire Bonne Maison, la fin de vie en procès.
Énième épisode, peut-être épilogue provisoire à l'UMP ?
Alléluia, l'UMP est sauvée. C'est curieux, on sent comme une pointe d'ironie sous la plume de Denis Domain dans la Nouvelle République. Et en fait, il n'est pas le seul, hein, tout le monde se marre. L'UMP est donc devenue hier soir l'union momentanée des Pachas, s'amuse Jacques Camus dans La République du Centre. Visiblement, à l'UMP, les soins palliatifs manquent d'efficacité. Hein. Pour prolonger un peu plus longtemps l'agonie, écrit Jean-Michel Servan dans le Midi Libre, les sages du Triumvirat ont choisi de confier l'intérim à Luc Chatel, un élément neutre, et surtout qui manie à la perfection la langue de bois. Mais qui finira, prédit-il, broyé par l'appareil, éclaboussé par les scandales et peut-être corrompu. Notez que les articles ne sont pas plus tendres quand il s'agit de la valse des conseillers à l'Élysée. Hein. Il y a d'abord les révélations de l'Express sur Faouzi Lamdaoui, au cœur d'une enquête préliminaire pour recel d'abus de biens sociaux et fraude fiscale. Mais celle qui fait le plus parler, c'est Laurence Beaune, fraîchement débarquée de Bank of America, Merrill Lynch, sur les conseils d'ailleurs de François-Henri Pinault. Enfin bon, formidable. Alors évidemment, les premiers mots qui viennent sous la plume des journalistes, ce sont ceux du président lui-même. Mon véritable ennemi, c'est la finance. Oui, parce que rappelle Éric Hackman dans Le Parisien, la sémillante conseillère n'a pas reculé devant des déclarations telles que « Notre système de protection sociale construit dans les années 50 devient trop coûteux ». Comme le dit Laurent Baumel, député PS frondeur, ça sent la glissade à gauche. Hein. Les chars soviétiques sont à nos portes. Pendant ce temps, la Voix du Nord nous raconte qu'un Intermarché de l'île Sud va fermer ses portes. Les salariés ont donc reçu, dans le cadre du joliment nommé plan de sauvegarde de l'emploi, un questionnaire leur demandant s'ils accepteraient un emploi à l'étranger. Et si oui, dans quel pays ? Belgique, c'est la première proposition, c'est logique. Pologne, Portugal, pays du Balkan, je cite le questionnaire. Question suivante, avez-vous des restrictions à formuler s'agissant de la rémunération susceptible de vous être proposée pour un poste à l'étranger ? Je pense que tout est dit.
Évidemment. On évoquait tout à l'heure le collectif budgétaire qui est discuté en ce moment. Visiblement, le ministère de la Défense va devoir faire des économies et on en parle dans la presse du ministère de la Défense.
Mais oui, en période de crise, la puissance publique dépense l'argent du contribuable avec sagacité. C'est ce que nous apprend le canard enchaîné. Le ministère de la Défense vient de choisir la société qui se chargera du stockage des données de l'armée. L'heureux élu, le français Computa Center, associé à l'américain IBM. Oui, parce qu'ils étaient les moins chers, très nettement. Sauf qu'IBM a annoncé en janvier la vente de son département de fabrique et d'entretien des serveurs au chinois Lenovo. Tous ces sympathiques fabricants ajoutent à leurs appareils des logiciels espions. Et comme les Français n'ont plus les reins pour fabriquer seuls, nous n'aurions pas échappé aux grandes oreilles de la NSA si nous avions choisi les autres. Mais nous sommes, dit le canard, les seuls occidentaux à offrir nos secrets défense à la Chine. Ça s'appelle le moins-disant stratégique en fait.
Et c'est donc à lire dans le canard. Dans le Parisien à présent, une soirée qui tourne pas très bien.
Oui, ça c'est une anecdote. Un des amis organise une soirée déguisée et choisissent le thème de l'Afrique. Un participant prend des photos et les diffuse sur le net. Scandale, la brigade anti-négrophobie et le CRAN portent plainte au motif que les amis en question sont policiers et se doivent donc d'être exemplaires. Avec des arguments assez étonnants en fait. L'une des photos, dit l'article, semble ouvertement raciste. Un homme qui se gratte le dessous du bras. On imagine que c'est pour mimer un singe. Mais les associations, nous explique l'article, s'insurgent contre le fait même qu'un blanc puisse se grimer en noir. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Je suis sûre qu'on parlera de ce débat.
Allez, on va se détendre et parler du sujet mondial.
Ah bah ça oui, du foot, il y en a partout bien sûr, et notamment dans l'Express, où l'on apprend que le choix du tatou à trois bandes comme mascotte du mondial ne l'empêche pas de disparaître sous le coup de la déforestation. Mais le meilleur article, il est aussi dans l'Express, et il nous montre des joueurs les pieds fixés à un socle en plastique. En fait, ils font que quelques centimètres. Vous êtes au championnat de France de Subutéo, ce jeu qui a connu son heure de gloire dans les années 1970.
Vous n'avez jamais joué, Natacha, honnêtement ?
Mais non, honnêtement, mais je me souviens du jeu, oui. C'est dans ces temps révolus où les jeux vidéo n'existaient pas. Alors, on trouve dans ce championnat de France des gamins, des vieux, même des filles qui poussent les petits bonshommes d'une pichenette et qui expliquent que ce sport est un mélange de billard et d'échecs, il faut de la stratégie. Mais ces petits personnages minuscules, quand on les regarde comme ça, entravés par un énorme poids, ils évoquent beaucoup plus des hommes politiques que des joueurs de foot, finalement.
Espérons que les joueurs de l'équipe de France seront un peu plus légers que ces petits pions de Subutéo. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Demain, Natacha.
À demain. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous.
Et oui, ma chère Julie, mon ami Julie, cher Thomas, cher Natacha, cher bonjour. Jean-Marc, Lolo, la Sommio, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute, ravi bien sûr de vous retrouver. Même si je dois bien vous l'avouer ce matin, exceptionnellement aujourd'hui, je n'ai pas trop bossé.
Ah bon ?
Écoutez, je suis arrivé en retard au bureau à cause de la grève des trains.
Ah, des trains, oui, ça vous concerne.
Ouais. Écoutez, non, je ne viens pas bosser en RER, rassurez-vous, ma chère Julie, mon cher Thomas. Non, mais je vous explique, les jours de grève, les pauvres prennent leur voiture. Donc, enfin, leur voiture, leur bout de ferraille rouillé et moche. Qui les transporte plus exactement, et ils embouteillent le chemin de ma pauvre Ferrari. Qui n'a rien demandé à personne. Non, mais Natacha, j'ai eu des visions d'horreur ce matin, des Twingo vert pomme, des vieilles Jean-Marc, des vieilles Renault 5 Kaki. Regardez, non, mais j'ai dû choper une conjonctivite, regardez, j'ai tout rouge, j'ai les yeux qui pleurent ce matin. Vraiment, ces grèves, c'est dramatique. Bon, en plus, aujourd'hui, je venais directement d'Orly, puisque je reviens d'un long week-end de Pentecôte passé à Marrakech. Oui, je vous dis tout, j'étais invité dans le riad des Balkaniers.
Oh là là, oh là.
Le riad qui s'appelle le Dar el Blindos.
Medard El Blindos.
Oui, c'est un petit riad, Julie, un petit riad coquet, légèrement plus grand que la Mamounia, avec ses 584 chambres et sa piscine olympique. Piscine olympique, je le précise au passage, responsable d'un quart de la sécheresse en Afrique.
Oh là là, c'est
comme quoi, vous voyez, les jeunes, je m'adresse aux jeunes qui nous écoutent, les jeunes, être un élu d'une petite commune de banlieue, ça rapporte quand même plus qu'autre chose. Alors arrêtez de vouloir être footballeur ou chanteur, faites Sciences Po de grâce. Allez, bref, on y va, c'est parti pour les titres.
Ah bah quand même, oui.
Où sont-elles? Où j'ai foutu? Voilà, mes lunettes en écailles de tortue naine d'Ibiza sur mesure de la maison Bonnet. Oui, ils vont pêcher eux-mêmes les tortues l'été à Ibiza. Avec ça, à la maison Bonnet, on reprend des montures gratos, j'y comprends rien. C'est parti pour les titres.
Allez.
Donc, affaire de la Villa Balkany à Saint-Martin, d'habitude, Isabelle Balka nie, mais là, elle a avoué.
Oh, remarquable.
Oui, j'en refasse, Isabelle Balka nie, mais là, elle a avoué, elle dit la vérité. Elle a oublié, depuis 17 ans, de signaler une petite propriété aux Antilles, au fisc. Isabelle Balkany est donc accusée de bronzage aux Antilles, mais de blanchiment en France. Oui. Bronzage, blanchiment, il y a, ouais. Ouais, non, ouais, y a du taf.
Ah non, mais c'est bien, bravo les auteurs.
Oui, hein. Bravo. Philippe,
ouais.
Laurent, Arnaud. Oui,
ouais, exactement.
Ça, c'est, écoutez, ça c'est Julie, c'est les femmes. Ça, vous êtes incapable de dire combien vous possédez de sacs à main, de paires de chaussures, de villas aux Antilles. C'est,
ouais, c'est
fou,
vrai,
ça.
Hein, c'est ballot. Hein, ouais.
Faut dire aussi, ils sont terribles. L'administration fiscale, toujours à pinailler, qui... Franchement, Jean-Marc, qui n'a jamais oublié qu'il possédait une petite villa aux Antilles, ouais, un chalet à Kstatt, un riad à Marrakech ou un petit appart à Miami.
Bah oui, hein.
Bien sûr. Forcément.
Vous n'avez pas oublié l'appart à Miami.
Non, ça va. Il est déclaré.
Ouais, très bien, parfait, tout va bien. Ce serait bête de se retrouver sur le site Morandini
à cause
de
l'appart.
Allez, clash chez les Le Pen. Le blog de Jean-Marie Le Pen ne sera plus hébergé sur le site du FN. Rendez-vous compte, Jean-Marie Le Pen expulsé. Elle est pas belle celle-là, franchement.
Bah oui, tiens, pas mal.
Info Élysée, Emmanuel Macron, le conseiller star de l'Élysée, quitte l'Élysée.
Oui.
C'est con ça quand même, franchement.
Pourquoi?
Il se serait appelé Emmanuel Macaron.
Quoi?
Plutôt qu'Emmanuel Macron, hein, une lettre près, Hollande l'aurait sûrement regardé. Hein. Oh. Oui, mais écoutez, faites pas la gueule, il faut aussi des courtes débiles comme ça pour mieux repartir ensuite. J'avais aussi, sinon. J'avais aussi.
Celle-là était magnifique, ouais, alors vraiment.
J'avais également, attendez, avant de
vous. Vous en avez d'autres sur Macron?
Oui, j'avais. Ah bon. Il a pas duré, Macron. La durée, Macron, Macaron, la durée, Macaron.
Ah, les macarons, la durée, oui, d'accord.
Ouais, écoutez,
d'accord,
si je fais ça en fin de saison, c'est pour qu'ils nous en envoient des macarons.
Ah bah, on espère en recevoir, oui, vous
j'aurais pas fait ça avec les rillettes du Mans, rassurez-vous. Allez, c'est la vidéo, chers auditeurs. Arrêtez la radio, allez sur la vidéo ou allez sur le site Europe 1. La vidéo qui fait le buzz, ça dure 1 minute et demie, c'est un régal. C'est Laurent Fabius en Algérie qui pionce en pleine réunion officielle en Algérie. Régalez-vous. Alors, on n'a pas d'explication, je sais pas, une digestion de couscous qui se passe mal sûrement. Il y a combien de décalages horaires, Jean-Marc, avec l'Algérie?
Une petite heure.
C'est pas énorme pourtant. Hein. Bon. Bref, le pauvre Lolo Fafa est tout avachi, vous le verrez sur la vidéo, c'est magnifique, tout amorphe. Bref, il ressemble à Bouteflika. Finalement, il a dû plaire aux Algériens.
Non, quand même pas. Allez. Merci Guillaume. Remarquable. Hein, bravo. On l'a appris hier, la cote de popularité de François Hollande remonte légèrement dans les sondages.
Alors, vous voyez que ça marche, ma stratégie.
Bah, quelle stratégie?
De me laisser doucement couler. Forcément, un moment où je touche le fond et je remonte, et c'est le cas. Et puis les Français, je le crois, ont aimé ma façon de gérer, les commémorations du débarquement. Et là, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, la reine mémère Elisabeth me manque.
La reine mémère vous manque, ah bon?
Oui, c'était bien, vous savez, ces moments passés partagés avec elle, avec mémère Elisabeth.
Oui.
Elle me parlait de... Elle ne me parlait pas de choses qui fâchent. Vous voyez, elle ne me parlait jamais de croissance ou de chômage. Mais vous savez, elle pense qu'à bouffer, à se balader. Finalement, c'est avec elle que je devrais sortir, pas avec Juju.
Tiens, Juju, puisque vous parlez d'elle, le magazine Closer affirme que vous voyez toujours Julie Gayet en secret, mais dans un endroit bien plus caché que la première fois. Alors ?
Non, écoutez, c'est pas... d'Europe 1 que je...
Quoi?
Plutôt que de me faire gauler à lui apporter des croissants, maintenant on fait ça directement dans une boulangerie.
Ah, c'est donc ça!
Dans le fourni!
Dans le pétrin, vous voulez dire, ouais, non?
C'est ma fournée. Bah, ou pas de dérapage? Non, pas de dérapage.
Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh ben, dites donc, on en a pour une belle. Merci, monsieur Hollande.
Je vous en prie.
Un mot des terribles orages qui ont sévi partout en France. Certains grêlons qui tombaient hier étaient aussi gros que des balles de tennis, hein, on l'a dit. Nelson Monfort, vous souhaitiez intervenir là-dessus?
Oui, oui, tout à fait, ma chère Julie, car j'ai malheureusement une très, très, très mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Qu'est-ce qu'il y a?
Richard Gasquet, notre grand Richard Gasquet, a été violemment touché au visage par un de ces grêlons dont vous parliez à l'instant.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, écoutez, notre pauvre Richard National était dehors, il marchait avec sa raquette quand un grêlon de la taille d'une balle de tennis lui arrivait droit dessus. Et là, malheureusement, vous connaissez nos joueurs français, nos joueurs de tennis français, il a raté son coup droit, il a pris en plein de tronche.
Oh, mais c'est pas vrai. Allez, encore autre chose, une petite pensée pour la comédienne Gisèle Casadesus qui a fêté hier ses 100 ans. Charles Aznavour, un petit mot pour Gisèle?
Oui. Gisèle. Oui. Elle est un petit peu plus âgée que moi, bah Gisèle. Oui, oui. Mais elle est encore fraîche, la Gisèle. Moi, la Gisèle, j'y vais. Moi, j'y vais tout de suite, la Gisèle.
Non, mais attendez, vous n'allez pas sortir avec Gisèle Casadesus quand même.
Ah, mais c'est déjà fait.
C'est déjà fait.
Ah bon, oui, je me suis déjà fait Casadesus.
Quoi?
Non.
Oui,
oh là là.
Oui. Ah, Jean-Marc, il est affûté, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que cette phrase peut prêter à confusion.
Oh bah oui, mais ça y est. Oui,
c'est vrai qu'à mon âge, dire je me suis fait Casadesus, c'est...
Oui, non, mais c'est bon.
Oui, c'est pas joli. C'est... Bon. Ça peut prêter à confusion.
Alors, Charles...
Je me suis fait Casadesus.
Non, soyons sérieux. Est-ce que vous allez bien? Parce que vous avez fêté vos 90 ans lors d'un concert événement à Berlin. Vous avez chanté en allemand. C'est fantastique, ça. Comment vous faites? Vous chantez en allemand, en français? Hein.
Écoute, Maryse, c'est grâce à mon dentier bilingue.
Un dentier bilingue, sérieusement? Mais vous n'en avez pas de dentier bilingue?
Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais allez.
Oh, arrête.
Je mets mon dentier bilingue.
Oh non.
Mon dentier allemand. Ouais. Schweidreim. Ich bin seul avec maman. In Schlein, très vieil appartement. Strassen, sehr azad.
Ah, c'est bien, c'est pas mal. Comment vous faites, Charles, pour que vos chansons traversent le temps comme ça?
Bon, je crois que très très simplement, je sais les réactualiser. Ah. Par exemple, ma chanson, hier encore, j'avais 20 ans.
Oui.
Je l'ai mise au goût du jour en changeant légèrement le titre.
Ah, elle s'appelle comment maintenant alors?
Hier encore, j'avais 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans.
Charles Aznavour et à Nicolas Canteloup. Franck Ribéry, Franck.
Oh, Thomas.
Bonjour, Franck.
Bonjour, Thomas.
À la Dany. Dites-moi, Franck, vous avez entendu ce matin à 8h moins le quart dans l'interview Vérité cette femme de 53 ans qui passe le bac. Et jamais trop tard, puisque vous avez un peu de temps, là, pas de mondial, tout ça, non?
Déjà, enculé, c'est quoi qui te fait croire que j'ai pas eu mon bac?
Ouais, je sais pas, je pose la question.
Au niveau scolaire, je fais sport et thunes.
Ouais.
Sport et thunes, plein de thunes. Sport et thunes. Ouais. C'était bien qu'à dessus.
Bon, et ben, ouais. Merci Franck Ribéry, merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Bonne journée.
Europe 1, 8h moins 5. 9h moins 5.
Thomas Soto, 6h 9h sur Europe 1.
Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 8h moins 5, c'est Danny Cohn-Bendit, hein, Julie,
matin. 9h moins 5.
L'ancien Premier ministre François Fillon était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20. Le nouveau collège qu'il forme avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin pour diriger l'UMP a demandé un audit des comptes du parti. François Fillon qui souhaite par ailleurs le maintien de la primaire pour la présidentielle de 2017, coûte que coûte.
S'il n'y a pas de primaire, je l'ai déjà dit, le risque qui pèse sur la droite et le centre, c'est une multitude de candidatures au premier tour de l'élection présidentielle. Donc si on veut pas, compte tenu du danger que représente le Front National et l'extrême droite, qu'il n'y ait aucun candidat de la droite au deuxième tour, il faut des primaires. Donc ces primaires ont été décidées par les militants, elles seront mises en œuvre.
Grève à la SNCF, on vous en parle et on vous tient informé du trafic en temps réel, notamment sur Europe1.fr, manifestation des taxis. Pas évident d'aller travailler ce matin et stress supplémentaire pour les candidats au bac. Angélique a une épreuve dans le Val d'Oise, elle a dû s'organiser pour être sûre d'être à l'heure. Vous l'avez entendu, c'était à 7h34 sur Europe.
C'est les oraux que je dois absolument pas foirer et louper. J'ai vraiment pas envie de me planter à cause d'une grève. Je risque de pas avoir mon bac, avoir un zéro et être éliminée alors que j'ai bossé dur, quoi. Ils nous mettent une grève alors qu'ils savent très bien que le mois de juin, tout le monde passe des épreuves super importantes puisque c'est le bac. Ils ont passé le bac avant nous, je pense. Donc, c'est vraiment pas sympa de leur part. Ça me met vraiment en colère et je trouve ça égoïste.
Et puis, les incivilités au travail. 4 salariés sur 10 en disent victimes, selon une étude pour un cabinet de prévention. Témoignage à 7h09 tout à l'heure de Julie. Julie qui travaille dans un open space à La Défense.
On arrive le matin, personne vous dit bonjour. On sort dans l'ascenseur, personne vous dit bonne journée. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais chaque jour. Personne ne le fait. Et là, franchement, oui, je suis hallucinée. J'ai l'impression de revenir au collège ou au lycée avec des gamins, alors que c'est des gens qui ont 40 ans, 50 ans. C'est pesant.
Voilà, Julie qui répondait à Jeanne Daudet. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr. Bonjour Jean-Marc Morandini.
Bonjour Thomas.
Le programme du Grand Direct des médias ce matin.
Eh bien, on va vous parler de cette colère qui monte à France Télévisions, chez M6, chez Canal+, à BFM TV et à iTélé qui seraient privés d'images du mondial. C'est la première fois que ça existe. Normalement, les chaînes ont droit à 30 secondes
droit
des matchs et des buts, droit à l'info. Et bien, cette fois, elles seraient totalement interdites d'images. On va vous expliquer pourquoi. On sera également avec Catherine Barma, la productrice de Laurent Ruquier de On n'est pas couché. Elle sera en direct avec nous dans ce studio. Et à partir de 10h, le buzz du jour, la grève, bien évidemment, grève à la SNCF. Comprenez-vous cette grève ou vous met-elle en colère? On vous attend au 3921 Standard d'Europe.
Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini, c'est juste après le journal de 9h sur Europe 1.